Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête atteinte depuis plus de 50 ans par le variant Omicron, Julie Leclerc.
Je ne m'attendais pas à ce que ce soit moi. Restez assis.
Une grosse tête qui n'a pas couché avec tous les chanteurs, il y a eu des musiciens aussi. Caroline Diamant.
Bonjour.
Une grosse tête tellement proche des Macron qu'il paraît qu'elle a les codes nucléaires. Gaëlle Tchakaloff.
Bonjour.
Que Dieu nous préserve.
Oh là là.
Une grosse tête qui est passée du grand pardon au grand studio RTL, Jean Benguigui. Une grosse tête qui peut nous citer du Hugo Victor dans la langue de Pantelin Jean-Baptiste. Boulez TV. Une grosse tête qui fond en larmes.
Attention.
Dès qu'il voit migrer des canards. Parce que ce sont des foie gras qui se tirent à l'étranger. Bernard Mabille.
Bonjour.
Quelle équipe. J'ai l'impression que j'ai sélectionné les meilleurs.
Moi, je le pense.
J'ai dit ça à ceux d'hier aussi.
Il dit ça tous les jours.
Je le pense.
Non, attendez, il y a Jean Benguigui.
Ah, pour la culture.
Ah, la dernière fois que j'ai fait une émission avec Jean Benguigui.
Il trouve tout, lui. Hein.
Déjà, je le trouvais brillant, mais là, il a surbrillé.
On a trois blondes pour la connerie.
Oh, mais ça va, oui.
Non, mais j'étais
dopé. Quatre avec Stevie.
Non, mais Stevie, c'est une fausse blonde.
Oui, t'as l'œil, toi. Hein. C'est vrai que t'es mématé.
Comment vous allez, Gaël Tchakaloff? Est-ce qu'on vous parle à l'Élysée des grosses têtes, vous dites tu devrais pas faire ça, vous devriez pas aller ici.
Ça m'est arrivé.
Ou chez Flammarion, votre éditeur, ils vous disent pas mais qu'est-ce que vous foutez dans cette émission.
Alors à l'Élysée, ça m'est arrivé qu'on me fasse des réflexions sur ce que je balançais aux grosses têtes.
Non.
J'avais fait des remarques sur Richard Ferrand, j'avais raconté le mode de vie de Richard Ferrand il y a quelques mois et voilà, ça a été mal interprété. Et chez Flammarion, on m'a dit soit tu fais les grosses têtes, soit t'es écrivain, mais tu choisis.
Elle a choisi les grosses têtes.
Voilà.
Chez Flammarion, t'as dit ça?
Je lui crois pas une seconde.
Mais alors, t'as choisi?
Moi, j'y crois complètement.
Et j'ai dit, moi, je choisis pas, donc c'est comme ça, je fais les deux, et si vous n'êtes pas content, je vais ailleurs. Hop.
Ah, la rebelle.
Julien nous a fait croire pareil pour un repas. Comment il va, Julie Leclerc?
Mais elle va bien.
Ouais.
Elle va bien. Alors, attends.
Attendez, on vous voit ici.
Attendez, Laurent. J'appelle un garage parce que j'ai encore des problèmes de voiture. Bout d'un petit moment, il me dit « Mais vous n'êtes pas Julie d'RTL ?» C'est la première fois qu'on me dit Julie d'RTL. Non, ça vous fait pas rire? Non.
On comprend.
On m'a reconnue, mais comme Julie d'RTL, alors que je suis là depuis quelques mois, c'est tout.
On comprend ton émotion, mais disons que ce n'est pas drôle.
Non, c'est pas drôle, mais je m'attendais à...
Ils sont cons, les garagistes. Hein.
Vous pouvez pas le faire, le « Ah !» Voilà, quand même.
Non, ils vous diront « Ah, mais c'est pas Julie de l'EHPAD !»
Bon, vous avez une question, Laurent?
Ah, dites-le. Il est impatient, lui, le babille, alors.
Non, mais je comprends pas cette animosité entre les deux blondes, là. On en parlera après.
Mais... Alors, monsieur Mabie a raison, on va enchaîner avec une première citation pour Linou Friche, qui habite Sautron. C'est en Loire-Atlantique.
Linou Friche. Linou Friche.
Madame Lynn Oufriche.
Oufriche.
Oufriche à Sautron. Voilà.
Oui, c'est où?
Qui a dit « Jésus changeait l'eau en vin et on s'étonne que 12 mecs le suivaient partout. »
Jean-Yann.
Frédéric Dard.
Jean-Yann.
Non.
Coluche.
Non. Mais c'est pas le roi.
Jean-Yann.
Un habitué des grosses têtes.
Sim.
Pierre Doris.
Non.
Pierre Desproges.
Pierre Desproges. Bonne réponse de Bernard Mabie. C'est Pierre Desproges. Une citation pour Nadège Favrol, qui habite Vareil, en Saône-et-Loire, qui a dit « Demander à un écrivain ce qu'il pense des critiques, c'est comme demander à un réverbère ce qu'il pense des chiens.
» Bec Bédé ?
Non, mais c'est un
écrivain.
C'est joli.
Un écrivain contemporain, toujours vivant. Ça aurait pu être Frédéric Becbédé.
Jean Tellet,
non.
Welbeck,
pardon.
Welbeck,
Michel Welbeck. Bonne réponse de Gaël Chakalov. C'est Michel Welbeck. Je suis allé à Jérusalem. C'est une citation pour Sophie Cruz qui habite La Riche. Je suis allé à Jérusalem, c'est chiant. Mais quand même, j'étais content, vu que je suis moitié arabe, moitié juif. D'un côté, je montrais ma tête, de l'autre côté, ma bite.
Oh. Enrico Macias.
Oh non.
Pierre Bénichoux.
C'est Pierre Bénichoux. Bonne réponse de Jean Bendigui.
C'est facile.
Oh, qu'il est drôle.
Que aurait-il dire, c'est ou moi ou lui.
Qu'il est drôle.
Eh oui, ça pouvait être que Pierre Bénichoux. Il vous l'a dit souvent, ce...
Non, mais c'est un truc qui circulait entre nous beaucoup. C'est drôle.
Eh ben oui, c'est bien Pierre Bénichoux. Excellente réponse de Jean Bendigui. Une question de culture générale pour Nadine Pécaud qui habite Paris 18e. Connaissez-vous le nom du bâtiment qui renferme le jeu de la pelote basque? À condition évidemment que ce bâtiment soit couvert, car on peut jouer de la pelote basque indoor ou outdoor. Mais quand c'est indoor, comment s'appelle le bâtiment?
Un fronton, non.
Un fronton, c'est extérieur.
Une palissade?
Une palissade, non.
Un gymnase?
Un gymnase, non.
Il y en a un à Paris, hein?
Ah, sûrement, oui.
Au-dessus du garage Aston Martin.
Mais normalement, c'est plutôt dans le sud-ouest qu'on joue à la pelote basque. Oui. Et c'est une zone de jeu quadrangulaire, fermée, couverte, avec un mur de face qui s'appelle le fronton. Ouais. Et vous frappez la pelote sur le mur, à droite, à gauche et au fond.
Et alors, vous voulez quoi? Le nom des quatre murs?
Le nom de la salle. Comment s'appelle une salle dans laquelle on joue à la pelote basque?
Il y a combien de murs, vous avez dit?
Mais on va pas quatre.
En vacances, une salle est fermée, il y a souvent quatre murs.
Non, il n'y a pas que forcément quatre murs. Ça peut être un penta ou un octo. Il peut y avoir 8 murs, il peut y avoir 12 murs.
C'est vrai, mais j'ai dit une zone de jeu quadrangulaire, voyez-vous. Donc quadrangulaire, voilà. Ça veut dire 4.
Oui, bon,
Laurent, ça se termine par d'or.
Pardon ?
Ça se termine par d'or.
Ah, pas du tout.
Non, car Laurent, parce que par exemple, au tennis, on joue sur un terrain de tennis.
Sur un court.
Ah oui, c'est vrai, c'est un nom. Mais au squash,
je sens que j'ai des flèches aujourd'hui.
Attendez, est-ce que c'est un mot qui est utilisé pour autre chose que la pelote basque?
Non, je ne connaissais ce mot que effectivement pour la pelote basque. Quand vous allez dans le sud-ouest, vous le voyez souvent, ce mot.
Ouais. En fait, vous ne connaissiez pas le mot.
Est-ce que
c'est
une consonance? Si, bien sûr que je le connais autrement, je ne vous poserai pas la question.
Le pelotonium.
Pardon?
Le pelotonium.
Le pelotonium.
J'y vais souvent.
Le pelotonium.
C'est un endroit pas Marie Curie.
C'est chez Fildar, ça. Ah, mamie, elle commence à tricoter.
Le Mariano.
Faire une écharpe.
Le Mariano,
non.
Pelostade.
Pelostade, non.
La pelouse.
Ah, la pelouse.
Non, t'en
le gazon.
Mais t'y connais rien, ces choses-là.
L'Albert.
Oh.
L'Albert.
Oh là là, mon...
L'Albert.
L'Albert, non.
Je connais un ami qui est basque, je peux pas l'appeler.
Bon. Non.
D'accord.
C'est Albert.
Albert est basque. Oui. Oh là là. Oh. Heureusement que je suis là pour faire comprendre les jeux de mots subtils.
Je t'ai envoyé, ma chérie.
Moi, j'avais compris, mais je voulais pas insister.
Ah là là.
Non, moi j'avoue, j'avais pas compris.
Oh là là.
Elle comprend rien.
Alors
elle,
on va traduire
le gymnasium.
On va traduire le gymnasium.
Mais non.
C'est pour ça que j'ai dit pelotonium, pour penser à gymnasium.
Monsieur Benguigui, vous connaissez ce mot. Et vous alors, Gaël, chacun, vous êtes
Gaël.
Allez dans le sud-ouest quand même.
Mais, oui, avec un nom pareil.
Non, j'y vais très peu dans le sud-ouest.
Non, mais dans le sud-ouest, on ne voit que des frontons extérieurs. On voit pas. Oui.
J'espérais qu'on appelle un joli garçon du sud-ouest.
Non, si vous allez à Saint-Jean-de-Luz, si vous allez à Pau, vous verrez des salles de pelote basque qui s'appellent...
Des restaurants.
L'Astrolabe.
Non, non.
À Pau, il y en a à Pau.
À Pau aussi, oui.
Est-ce qu'il y a pelote dans
pelote,
le mot?
Non.
Est-ce qu'il y a Pau?
C'est marrant parce que j'étais persuadé que ma question était très facile.
Non,
on n'y joue pas. Hein.
Et qu'on allait démarrer, évidemment, par tout de suite un chèque économisé.
Ah bah non, moi je pense qu'on va démarrer
pelothèque.
Par 400 euros.
La pelothèque.
La pelothèque. Non, non, non.
Est-ce qu'il y a un P dans le mot?
Il n'y a même pas de P dans le mot.
Non.
Ça, c'est honteux. C'est honteux. Ben, c'est un scandale.
Ah, évidemment, si vraiment vous voulez que je vous aide, ça peut devenir un verbe, si vous en avez envie. Si vous enlevez l'article, ça va devenir un verbe. Et vous connaissez d'ailleurs mieux le verbe, sûrement, qui n'a rien à voir, pour le coup, avec le mot.
Se pelotonner. Se pelotonner.
Pilonner.
Pilonner, non.
Quadriller.
Bésodrome.
Non.
Quadriller, quadrille.
Quadriller, non.
Non.
Attendez, il n'y a pas de pille, il n'y a pas de l'eau.
Comment s'appelle la raquette de la pelote basse?
Bah, c'est avec la main.
C'est la
non,
main.
Mais il y a soit une la main, soit
une la chistera.
Chistera. Une chistera.
Rien que ça, je ne le savais pas.
Avec cet plat, moi, la chistera.
Un chistérarium.
Non, 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 non. Non, mais oubliez le verbe. Le verbe il n'a aucun rapport avec le mot. C'est parce que j'essaie de vous faire deviner.
Est-ce que le... C'est un verbe qui signifie quoi? Un verbe qui signifie quoi?
Oh, bah ça, vous le connaissez, vous, ce verbe, croyez-moi.
Jouir. Jouir.
Non, mais. Traîner pas, Julie ou pas?
Ah, le sucium. Le sucium.
Ah, le sodomium.
Oh,
en fait.
Ah, le sodomium.
Le pipodrome.
J'aurais jamais dû dire ça.
Le hackett patonium.
Non, le séductum.
Oh, madame, le séductum.
Est-ce qu'il y a le mot jambon dedans?
Oh, le tilapin, ça y est.
Bon, écoutez, on va faire 300 euros.
Il y en a un peu plus, je vous le mets comme yum.
Et je suis certain, ça se termine pas en mium, vous voyez.
Ah, dommage.
Je suis certain qu'on va avoir la réponse dans la salle. Levez la main,
bon,
ceux qui connaissent, regardez. Oh, il y a 3, 4, 5.
Il y a des
basses
en premier.
C'est le basket.
Non, non, non. Non.
Jeu de mots.
Ah oui, oui, bah, oui, oui, bah, gardez-les pour vous. Hein. Ah non, j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte.
Ah, il y a horizon dedans.
Il n'y a pas horizon.
Il y a basculé.
300 euros qui s'en vont, c'est bien triste, c'est bien dommage. On vient de perdre une jolie somme ici à RTL et croyez-moi, on en a besoin en ce moment. Et on va perdre 100 euros de plus sûrement. Stevie, vous êtes déjà parmi le public.
Oui, je suis là, je suis avec une charmante dame. Bonjour madame, vous appelez comment?
Catherine.
Et vous venez d'où?
De Rueil-Malmaison.
Et que faites-vous dans la vie?
Retraitée.
Et votre réponse?
Le trinquet.
Le trinquet, excellente réponse.
On aurait dû.
Bravo, madame.
Jamais entendu parler.
Je ne vois pas le rapport avec moi. Hein.
Bah, si, trinquer, vous avez bien
trinquer.
Oh, bah,
si, t'as souvent le bras en l'air quand même.
Mais n'importe quoi.
Oh, bah, non, t'as plus souvent le bras tendu que la bouche
ah,
ouverte.
Ah, mais moi, je pensais à la trinquette. Mais... N'importe quoi.
Alors, vraiment, si on commence par la première question à donner 400 euros en général, c'est le début d'une énorme série.
Non, c'est très, très, très compliqué.
Ah oui, monsieur Boulet.
Ah
oui.
Non, mais là. Ça s'appelle comment déjà le truc pour lancer? J'ai déjà oublié.
La chistera.
Chistera.
Et le lieu où on joue, c'est le. Trinqué. Et ben
c'est
voyez,
compliqué,
la comptabilité de RTL a déjà les nerfs en plotte basque. On se retrouve après la pub. On a quelques blagues. Je préfère vous demander des blagues et des histoires drôles parce que je vois bien que pour les réponses aujourd'hui, ça va pas être ça. Autant faire économiser un peu d'argent à nos camarades. Bon, Caroline, vous avez une bonne histoire?
Oui, elle est excellente. Dans un cimetière, il y a deux femmes qui ont tout d'un coup envie de faire un gros besoin. Alors, elles vont derrière une tombe et puis elles cherchent un coin pour se soulager, c'est normal. Alors, quand elles ont fini, ces deux idiotes, qu'est-ce qui se passe? Elles ont pas de quoi s'essuyer. Alors, il y en a une qui dit, c'est une culotte pas chère, je m'en fous, je m'essuie avec la culotte. Alors l'autre dit, écoute, la mienne, elle est chère, donc non, moi, je vais essayer de trouver un truc. Puis elle voit un petit ruban, alors elle le met dans sa culotte. Et le lendemain, les maris se rencontrent. Puis il y en a un qui dit donc, hier, ma femme, elle est rentrée sans culotte. Il dit, écoute, c'est pas mieux, moi, la mienne, elle est rentrée avec un ruban, il y avait marqué dessus, de la part de tout le bataillon, nous pensons très fort à toi.
Elle est bien. Stevie, vous en avez une, Stevie?
Ouais, j'en ai une bonne.
Ah,
elle est efficace, je
pense. Allez.
Quelle différence y a-t-il entre Caroline et une boule de bowling?
Qu'est-ce que c'est que ça?
Dans une boule de bowling, on peut mettre que 3 doigts.
Oh mon Dieu!
Non mais ça, non, c'est nul. Ah non.
Je suis allé faire rire.
Oh là là.
Alors, Jean.
Bonjour, monsieur.
C'est fini.
Bonjour, c'est une histoire qui nous a été envoyée par Éric Zemmour.
Bonjour, ma petite. Qu'est-ce que tu veux? J'aimerais commander un bateau d'anniversaire pour l'anniversaire de ma sœur. Comment? Je veux un bateau d'anniversaire. Un bateau d'anniversaire pour ma sœur. Ah, un gâteau d'anniversaire. Et quel genre de gâteau? Un gâteau plein de crèmes avec son nom charqué dessus. Avec des fraises. D'accord, pour les fraises. Mais comment elle s'appelle ta sœur? Plumelle.
Hein?
Mais c'est joli, ça, mais d'où ça vient? Quand elle venait de naître, une plume est tombé sur son berbeau. C'est mignon. Et toi, comment tu t'appelles? poutrelle.
Elle est monstrueuse.
Bah, ça veut dire qu'elle t'a fait une poutre, elle comprend pas.
J'ai rien compris, je n'entendais pas.
Julie, racontez vos histoires puisque vous ne comprenez pas celles des autres.
Là, j'ai rien compris à la tienne.
La vôtre, la vôtre.
Ah bah, moi, c'est épouvantable, hein, moi.
Oh, bah attends, t'as pas entendu la tienne.
Non, mais j'ai pas compris.
T'as pas compris.
Alors, ça se passe dans une école religieuse. Alors, on va faire un petit peu de leçon de choses. Qui peut me dire avec quoi on fait la compote? Le petit Marcel là-bas, par exemple, hein, vous qui rigolez, allez-y. Bah, la compote, on peut la faire avec des pêches. Oui, bon, par exemple, c'est bien, mon petit Marcel. Bon, mon petit Robert, une autre idée? On peut faire la compote avec des poires. Oui, d'accord, mais personne ne me dit le... Enfin bon, avec des poires, des pêches, d'accord, mais... Et alors, mon petit Michel, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Eh ben moi, je vais vous dire, ils ont tout faux, parce que ça se fait avec des limes, la compote.
Elle s'appelle pas poutrelle?
La compote, dit le petit Michel, ça se fait avec des limes. Avec des limes, dit la maîtresse. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Eh ben, le gosse répond, l'autre jour, je passais dans la chambre de mes parents et maman a dit à papa, arrête de limer. J'ai le cul en compote.
Mais elle est épouvantable, quoi.
Elle est bien.
Mais la chute est bien, mais pourquoi lire la Bible avant, quoi?
Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour avoir des points retraite?
Gaëlle Tchakaloff.
Non, mais la mienne, elle est hyper
distinguée
par rapport à celle de...
Allez-y, Gaëlle.
Alors... moi, le problème, c'est que même quand elles sont bien, c'est quand je les dis, c'est pourri, quoi.
C'est l'histoire,
pourquoi.
Quoi, ça.
Un petit garçon demande à son père, « Papa, c'est quoi la différence entre réel et virtuel ?»« C'est simple, dit le papa. Va demander à ta mère et à ta sœur si elles sont prêtes à coucher avec un inconnu pour 1 million d'euros. » Le garçon va demander et rapporte la réponse. « Elles ont dit que pour 1 million, elles feraient l'effort. » « Eh bien, tu vois, répond le papa, virtuellement, on est millionnaire et réellement, on a 2 putes à la maison.
Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL.
Toujours avec Julie Leclerc, Caroline Diamant, Gaël Tchakaloff, Stevie Boulet, Bernard Mabie et Jean Benguigui. La question littéraire, pour remonter un peu le niveau, on compte sur vous, monsieur.
Oui, pas de souci.
C'est mal barré. Hein,
et sur mademoiselle Tchakaloff aussi, tout de même, qui est écrivain, rappelons-le.
Mais moi aussi, quand même.
Comment ça vous...
Oh, ça m'arrive une fois sur 100, c'est peut-être la bonne.
Ah, d'accord, alors, espérons, alors. Il s'agit de retrouver le nom d'un écrivain mort d'une crise cardiaque en 1980, alors qu'il était en vacances, alors non pas à Ibiza, mais en Espagne, tout de même, dans la province d'Alicante. Et sur sa table d'écrivain, il a laissé inachevé son projet de roman, puisqu'il a été atteint d'une attaque au moment où il écrivait. On a retrouvé sur sa table, sur son bureau, là-bas en Espagne, un roman intitulé « Vent de Mars », de même qu'un autre projet qui s'appelait « Nouvelles Espagnoles ». Après, il a été rapatrié sur Paris, évidemment, et enterré au cimetière de Passy. De quel écrivain s'agit-il ?
Écrivain français ?
Oui, français, madame. Français.
Est-ce qu'il a été l'amant d'une célèbre comédienne ?
Ah non, je ne crois pas. Non.
Ah, qu'en pensez-vous ?
Non, mais je vous ai dit qu'il avait été enterré au cimetière de Passy. Attention, il n'y est plus.
Ah, il est au Panthéon, maintenant.
Il est au Panthéon.
Joséphine Baker.
Enfin... Mais non.
Maurice Genevoix.
Pardon.
Maurice Genevoix.
Maurice Genevoix. Oh. Bonne réponse de Gaël Tchakaloff. Oh. Ça, c'est bien, Gaël. C'est Maurice Genevoix. Une autre question pour Nathalie Thomas, qui habite Ploumoguer. C'est dans le Finistère. Quel est l'auteur de la littérature à l'estomac des carnets du Grand Chemin et du Balcon en forêt ?
Julien Gracq.
Excellente réponse de Jean Benguigui. Et attention, hein, 3 à la suite pour Franck Prost, qui habite Rennes, dans l'Ille-et-Vilaine. On peut faire des mots croisés pendant ce temps-là, les deux blondes.
C'est pas gentil pour elle.
Il s'agit de retrouver le nom de la célèbre pièce de théâtre et le nom de l'auteur de cette pièce de théâtre. Une pièce qui raconte comment Alan Strong, un adolescent apparemment sans souci, a pris la décision de crever les yeux de 6 chevaux dans un accès de démence. Pour comprendre son geste, un psychiatre, le docteur Martin Dysart, va tenter de démêler les chevaux psychologiques de son jeune patient.
Tennessee Williams ?
Pas du tout.
C'est Écus.
C'est un auteur anglo-saxon.
Écus, c'est l'auteur.
Yves Saint-Martin ?
Non.
C'était joué par François Perrier, je crois.
Écus, bravo, ouais. Vous avez déjà
mise en scène par Polanski, oui, au théâtre Marigny.
Voilà, voilà.
Il ne reste plus qu'à trouver l'auteur.
À 20h30, je crois, ça démarrait.
On a même le prénom de l'ouvreur.
Métro Franklin Roosevelt.
C'est un auteur américain ?
Peter Schaffer.
Excellente réponse de Jean Benguigui.
Oh là là, on se calme, Jean.
Alors là, bravo. Non, parce que c'était pas facile. Bernard Mabie a donné la pièce, Écus, et Monsieur Benguigui a donné l'auteur de la pièce.
Non, bravo.
Peter Schaffer. Ouais. Là, on vient. Alors là, on vient de se rattraper sur le trinquet.
Il nous manque. Oui. Il nous manque le nom du cheval.
Puisqu'on a un peu de temps là.
Ah bon.
Je tente très bien 4 à la suite. Là, vous avez été brillant.
Oui, oui.
Encore
oui.
Une question. Allez-y. Littéraire. Là, il s'agit de retrouver le nom d'un écrivain britannique, également scénariste et réalisateur de cinéma, auteur de nombreux romans policiers, récits d'aventure. Quel est le nom de cet écrivain qui a écrit, entre autres, écoutez bien parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de titres que je peux vous donner.
Allez-y.
Allons-y. Les 4 justiciers, La chambre numéro 13, Le château de la terreur.
Ah, c'est un Mac quelque chose, non ?
C'est pas un Mac. Je sais que vous en avez connu pas mal, mais...
Ian Fleming ?
Ah non, c'est pas Ian Fleming.
C'est un homme ?
Ah oui, c'est un homme.
Il a été anobli par la reine ?
Ah, il a été surtout adapté énormément au cinéma. Par exemple, on lui doit aussi La mélodie de la mort. Voyez-vous, The Melody of Death.
C'est des films que j'ai pas vus.
Of Death.
Et aussi Le Cercle Rouge.
Ah, Melville, c'était Melville. Un film de Melville.
Ah, bah oui, mais
c'est pas ça la question.
C'est non. Un écrivain d'abord. Voyez-vous.
Laurent, est-ce qu'il a un... Non, j'ai pas de question.
Il vit toujours ?
Ah non, il ne vit plus. L'assassin de l'humour, Cran d'arrêt.
Il est plus connu comme écrivain ou comme réalisateur scénariste ?
Il est plus connu comme écrivain.
Et il réalisait ses bouquins ?
Et oui, il mettait en scène ses livres. Ouais.
Non, il a écrit des scénarios, par exemple Le Chien des Baskerville, voyez-vous.
Donc il avait
d'après Conan Doyle.
Oui. Et aussi le premier King Kong de 1933.
Oh là là. King Vidor.
Non, il a adapté Le Chien des Baskerville de Conan Doyle, puis ensuite il a participé au scénario de King Kong. Mais comme il était diabétique, voilà, il n'a pas pu mener ses projets de scénario jusqu'au bout. Il est mort en février 1932.
Il avait quel âge ?
Les 4 justiciers sont peut-être...
son œuvre la plus célèbre.
Voilà.
Griffin ?
Comment vous dites ?
Griffin ?
Non. Je peux vous aider en vous disant que ça aurait été amusant s'il avait épousé, par exemple, Brigitte Fontaine.
Est-ce que c'est drôle si on met Fontaine avant ou Fontaine après ?
Si on met... C'est pas drôle, mais en tout cas, ça veut dire quelque chose.
Boileau.
Non.
Il s'appelle à la Claire.
Alistair.
À la Claire Fontaine.
Bah oui.
Claire
oui.
Fontaine. Bah oui.
Il s'appelle pas Trévise.
C'est mais pas bête, ça.
Vous êtes sur une bonne piste, monsieur Mabie.
Ah, je l'avais
Wallace,
dit avant. Hein.
Wallace.
Alors,
pardon,
quand c'est lui.
Wallace.
Wallace,
c'est
Fontaine. Ah,
Wallace.
Edgar Wallace. Bonne réponse de Bernard Mabie.
Bravo.
Une question pour Dominique Potel qui habite Pont-l'Évêque. On reste aux États-Unis puisqu'il s'agit maintenant d'un Américain qui s'appelait Edouard Hydrick. Edouard Hydrick a inventé quelque chose et quand il est mort, il a demandé à ce que ses cendres soient moulées sous la forme de ce qu'il avait inventé.
Un cigare, le cigare ?
Non, qu'avait-il inventé ?
Chasse d'eau.
La chasse d'eau.
Un objet usuel ?
Alors, usuel, non, mais...
Un objet qui permet de voler ?
Ah, de voler, non.
On s'en sert
enfin, ça dépend,
peu.
Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Ah, c'est une drogue, c'est ça ?
Ah non.
Oh bah, elle volait, elle pense à drogue, je sais pas, moi je pense à cerf-volant.
On l'a dans la cuisine ?
Pardon ?
On l'a dans la cuisine ?
Ah non, c'est pas pour l'intérieur.
Une nouvelle pierre.
Est-ce qu'on en a un tout court ?
Vous, je ne crois pas. comparable.
Est-ce que les autres grosses têtes en ont?
Peut-être Stevie en a eu un.
C'est un moyen de transport?
Non, pas du tout. Monsieur Edouard Heydrich.
Stevie, tu penses qu'il a un train chez lui ou...
Ah non, c'est un truc pour les plantes. C'est un truc pour entretenir les plantes.
Non, mais j'ai dit que normalement, on n'avait pas ça à la maison, vous voyez.
Ah, on l'a dehors.
On l'a au jardin. On l'a dans le jardin.
On l'a à la maison, mais on ne s'en sert pas à la maison.
Ah, on l'a à la maison.
Et Edouard Heydrich a inventé ça. En...
Une tondeuse?
Non.
Ah oui, le tandem.
Dans les années 50, et quand il est mort, alors, au début, sa famille a cru que c'était une blague, parce qu'il... Toute sa vie, il a dit, ah, le jour où je mourrai, je veux absolument que vous me mettiez mes cendres sous forme de...
Non, mais déjà, je ne savais pas qu'on pouvait durcir des cendres, moi.
Mouler, on les moule.
C'est sexuel. C'est sexuel.
Comment on moule des cendres?
C'est sexuel, non.
C'est un tout petit truc, alors.
Un petit peu.
Des rollers
sexuel.
Non. Et en 2002, quelques jours avant sa mort, eh bien, il a annoncé, effectivement, dans ses dernières volontés, qu'il voulait que ses cendres soient moulées sous la forme d'un...
D'un pog?
Ah non, non.
Et vraiment, ça n'existait pas avant qu'il l'invente?
Ah non, non, lui, c'est lui qui a inventé ça.
C'est le principe de l'invention, hein.
Mais c'est un objet utilitaire?
Alors, je vais être très
Merci
honnête
Bernard.
Avec toi.
C'est un objet
Au moment
utilitaire.
Où j'ai posé la question, je me suis dit, j'ai déjà posé des questions cons, mais celle-là...
Celle-là, elle est belle, elle est belle, elle est belle.
Ah, celle-là, je veux dire, on est sur un bon level.
Est-ce que c'est pour jardiner?
Pas du tout.
Est-ce que c'est pour être, faire du sport en extérieur en
Oui, monsieur.
Ah, ah le Discman ou le baladeur? Le
non.
Walkman?
Non.
Le hula hoop?
Non, mais ah, il avait aussi inventé le hula hoop.
Ah, okay.
Ah, le deltaplan?
Le frisbee?
Le deltaplan?
Le frisbee?
Le frisbee? Oh, ouais. Bonne réponse de Jean Benguigui.
Je croyais que c'était un Australien qui avait inventé le frisbee.
Non. C'est bien Edouard Heydrich qui a inventé ce nouveau jeu, le frisbee, et il avait demandé à ce que ses cendres soient moulées sous la forme d'un frisbee à sa mort.
Ah oh bah déjà, je trouvais que c'était con, le frisbee.
En fait, vous confondez, puisque vous avez cru que c'était un Australien, avec le boomerang.
Voilà. Absolument. Le frisbee. Mais le frisbee, excusez-moi, s'il ne revient pas, c'est pas, on ne joue pas. Hein.
Ah non. Mais il ne revient pas, le frisbee.
Le frisbee ne revient pas.
Mais non, non, il ne revient pas.
Il n'y a que, il y a que Djokovic, quand vous l'envoyez en Australie, qui revient.
Oh, le cadeau pour la bonne femme, la bonne.
Ah ouais.
Dès qu'elle veut l'envoyer quelque part.
Ouais, et quand elle reçoit des gens, et ça, c'est un frisbee, non, c'est mon mari.
Il aurait dû mettre ses cendres dans un Mister Freeze, elle aurait continué à le
faire.
Oh non.
Mister Heydrich.
Pour Rémi Jaya, qui habite Vichy, dans l'Allier, pouvez-vous me dire comment s'appelle le bouchon qui se trouve à la frontière entre la Colombie et le Panama?
Un embouteillage?
Non.
Le pan entre le Panama
Hidalgo,
et
le Hidalgo.
C'est une zone de marais et de forêts située à la frontière entre la Colombie et le Panama.
L'Amazonie?
Non, ça fait quand même 160 km de long et 50 km de large.
Ouais.
Il n'y a aucune infrastructure à cet endroit, aucune route. Et c'est très connu évidemment en géographie. On appelle ça la région du ou le bouchon du.
Du diable?
Du diable, non.
Ça se sniffe?
Ah non, du... ça se sniffe pas.
Le
non.
Bouchon de...
Le bouchon, c'est la terre?
Non,
ce morceau
non,
de terre
non,
qui
non,
manque?
Non, non, non.
C'est un nom propre.
Et pourquoi on appelle ça le bouchon? Parce que c'est la forme d'un bouchon?
Oui, un peu,
Il
voyez-vous.
Vient de le dire, oui.
C'est à l'est de l'isthme de Panama, à cheval sur le Panama et la Colombie, et ça marque la limite entre l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud.
Le bouchon de cocaïne,
c'est pas l'isthme de Panama?
Non, 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 non.
Alors attendez,
alors, ce bouchon...
est-ce que c'est un mot espagnol que nous
Alors,
cherchons.
On peut le dire à la française, on peut le dire à l'espagnol.
Si on le dit à l'espagnol, on le dit comment?
On dit pareil, oui, c'est pareil.
Tu veux le faire parler, toi?
J'ai fait vous faire parler.
Bah, oui.
Alors, pas très loin, vous avez côté panaméen Yaziva, vous voyez, qui est le principal...
L'Aziza?
Oui. Non, Yaziva, qui est le centre culturel. Et puis, alors, vous avez évidemment quand même quelques Indiens par là. Hein. Vous avez les Cuevas, mais ils ont été exterminés depuis. Les Mberas, les Kunas.
Ah, donc c'est...
Il y a des, y a des churras. Attendez, les Kunas.
Attendez.
Attendez, je l'ai. Il y a des
churras.
Il y a des chutes d'eau célèbres.
Pardon.
À côté, il y a des chutes d'eau célèbres.
Il y a peut-être des chutes d'eau célèbres, mais pas à ma connaissance. Non, non, non.
Laurent, est-ce que vous nous donnez des tribus d'Indiens parce qu'en fait, ça le nom, ça porte le nom d'une tribu?
Pas du tout. C'est quand même une zone d'activité pour les rebelles colombiens qui viennent parfois.
Le cartel. Medellin,
le
bouchon du parc.
Comme dirait Caroline, on ne peut pas répondre si on ne sait pas la réponse.
On peut deviner.
Laurent, aidez-nous.
Je peux vous aider phonétiquement,
ah,
si vous
ah,
voulez.
Oui, bah oui, moi, toute aide
à
est bienvenue.
À moins que quelqu'un dans la salle ait la réponse et lève la main, mais je n'ai pas l'impression. Non, non, non.
C'est introuvable. Hein.
Alors, je vais vous aider. Alors. On va dire que c'est une façon pour Jean-Philippe Janssen de répondre quand quelqu'un le remercie. Il, dans ces cas-là, il dit...
Merci les gens. Pas de non, quoi non.
Biloute.
Ah oui, quand même,
le
oui.
bouchon de Biloute.
C'est pas le bouchon de Biloute, non. Alors, attendez. Vous faites Jean-Philippe, Bernard.
Oui, oui, oui. Ok.
Moi, je vous dis merci, Jean-Philippe. Et tu réponds ?
De rien, madame.
Bonne réponse de Bernard Mabie, le bouchon d'Arien.
Jamais entendu ce nom, jamais.
Oh, quelle alors, belle question.
C'est la région du Darien. C'est vrai que Jean-Philippe, quand on lui dit oui, merci, Darien. Répond Darien.
Darien. Darien.
Le bouchon du Darien, vous ne connaissiez pas, Stevie?
Non, mais j'irai voir sur Google Earth.
Ah ben voilà, ben oui, vous voyez, comme quoi vous avez encore à apprendre en géographie.
La Terre est vaste.
Non, mais, ça, c'est bien dit.
Non, mais, en plus, je m'intéresse à la Lune, aux cratères, aux machins, je ne peux pas être partout.
Eh ben écoutez, si vous intéressez à la Lune, foutez-y le bouchon du Darien. Ça nous arrangera tous.
RTL, le livre du jour.
Le livre du jour est signé Aude Barietti, qu'on va avoir au téléphone dans un instant. Je vous donne pas le sujet de son livre parce que ce serait évidemment trop facile par rapport à la question que je vais vous poser à destination aussi de monsieur Thomas Berthaud qui habite Le Ménil-sur-Blangy dans le Calvados. Il espère un chèque de 300 euros. Dans la gendarmerie, qu'est-ce qu'on appelle, dans la gendarmerie nationale, qu'est-ce qu'on appelle la Diane depuis peu ?
Est-ce que c'est un lieu ?
Alors, on va dire que c'est une division de la gendarmerie.
Ah, c'est la division à cheval.
Donc ça rassemble des gens.
C'est
un certain type de gendarme.
Non, c'est un pôle judiciaire de la gendarmerie nationale.
C'est est-ce que c'est un acronyme ?
Attendez, je sais.
Pardon ?
Je sais, moi. C'est le truc sur les réseaux numériques ?
Non, pas du tout.
Laurent, est-ce que Diane forme un acronyme ?
Oui, madame.
C'est les bœufs d'or,
c'est la division. Le département.
Division, oui.
La division informatique des anciens.
Et d'ailleurs, on connaît plutôt
épicurien.
Non, on connaît plutôt le terme américain, évidemment, grâce aux séries, grâce aux feuilletons. Et on ne sait pas qu'en France, ça s'appelle la Diane.
Ah, bah, c'est les experts.
Les colcaises.
Les colcaises. Et ça veut dire quoi ?
Les affaires classées.
Les affaires classées.
Non résolues.
Les affaires non élucidées. Diane, ça veut dire division des affaires non élucidées. Diane, bonne réponse collective.
J'adore Cold Case.
Effectivement, d'où le surnom Cold Case aussi aux États-Unis. Mais chez nous, j'ignorais que ça s'appelait la Diane. C'est grâce au livre d'Aude Barietti que je l'ai appris. Mais finalement, est-ce que c'est une affaire non élucidée que l'affaire dont vous parlez, Aude Barietti, bonjour.
Bonjour.
Puisqu'il s'agit d'un livre consacré à Nordal Lelandais, du procès Noyé au procès Maëlys. Vous avez suivi le premier procès. Et d'ailleurs, je me suis souvent posé la question, et vous apportez la réponse dans votre livre, pourquoi y a-t-il deux procès et pourquoi on n'a pas fait les deux procès en même temps ?
Alors, dans ce cadre-là, c'est notamment pour permettre aux parties civiles d'avoir chacune son procès. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a la famille d'Arthur Noyer, et puis la famille de la petite Maëlys et les familles des deux petites cousines qui auraient été agressées sexuellement par Nordal Lelandais. Et d'ailleurs, une troisième cousine qui aurait, elle aussi, été agressée sexuellement. Et il y aura donc peut-être un troisième procès, cette fois à Charleville-Mézières.
Votre livre est passionnant, très complet au point même, et ça, je l'ignorais. Mais alors, j'ai appris, et ça, je l'ignorais, que les chanteurs Vita et Slimane avait carrément dédié une chanson à la petite fille qui s'appelle d'ailleurs Maëlys, cette chanson.
Oui, tout à fait. C'est une chanson qu'ils ont voulu dédier à la petite fille. Vraiment, la disparition de la petite Maëlys, son enlèvement, son meurtre, ont suscité l'émotion dans la France tout entière. Je pense que chacun autour de cette table ici s'en souvient. C'est le cauchemar de tous les parents, ce qui s'est passé à ce mariage du Pont de Beauvoisin en août 2017. Mmh. Ça a beaucoup ému l'opinion publique et les chanteurs Vita et Slimane ont décidé de dédier une chanson à la petite fille. D'ailleurs, la mère de Maëlys, Jennifer Clay Merel, a posté cette chanson sur son mur Facebook. Facebook en les remerciant.
Alors, il avait quand même, il faut dire, des mœurs sexuelles un peu particulières. Il y a quand même des choses, moi, qui me... Je dois dire que... Dieu sait qu'il n'y a pas grand-chose qui me choque, mais il y a quelqu'un qui l'a échappé belle. Parmi les témoins qu'on a pu entendre à l'époque, un monsieur qui s'appelle Richard, un jeune homme qui habite en Suisse, qui vient au procès en veste, en jean, et qui raconte quand même sa rencontre avec Nordal Lelandais. Ils ont pris rendez-vous l'un et l'autre. Ils se sont retrouvés à un péage et il lui avait demandé de venir en tenue militaire. Donc Nordal Lelandais est venu en treillis et il a mis le jeune homme dans le coffre de sa voiture et l'a emmené jusqu'à un lac. Alors le jeune homme en question qui témoigne dit « J'étais consentant, c'est moi qui suis monté dans le coffre ». Faut quand même le faire de montrer, de, franchement, monter dans le coffre, il y a quand même des envies sexuelles particulières.
S'il bandait comme ça, le mec, qu'est-ce que tu veux faire ?
On peut pas mais fermer le coffre.
C'est pas commun, avouer quand même, Aude Barietti, ce témoignage.
Alors, je ne suis pas Aude Barietti, mais je peux vous répondre, c'est pas commun, comme on dit.
C'est pas commun.
Oh non, mais attendez.
Et rétrospectivement, ce garçon a dû avoir la terreur de sa vie, vous êtes d'accord ?
Et puis quand tu vas porter plainte, tu te sens...
Il l'a dit d'ailleurs, hein, ce jeune Richard au procès, que rétrospectivement, il avait l'impression de l'avoir échappé belle, mais il était aussi finalement, il se sentait coupable, puisque le soir du meurtre d'Arthur Noyer, Nordal Lelandais avait essayé de le contacter, et lui avait dit qu'il n'était pas disponible. Et en fait, il a dit au procès que s'il avait répondu oui ce soir-là, peut-être que Nordal Lelandais n'aurait jamais tué Arthur Noyer, probablement.
Il ne pouvait pas répondre, il était dans un autre coffre, peut-être. Mais en tout cas, ça s'appelle du procès Noyer. Non, mais c'est fou, là. Où va se nicher, où va se nicher la sexualité
non,
par
non, mais moi, déjà, je n'ouvre pas quand on me livre une pizza si je ne vois pas la pizza. Alors, je vais vous dire.
On vous dit de grimper dans un coffre.
On me dit de grimper dans un coffre. Bon, déjà, c'est vrai qu'il faut que ce soit quand même une bonne voiture. Mais il y a.
Dans une
Smart,
non, pas
mais il faut vraiment.
Demandons à Stevie, c'est quand même celui qui.
Oui, je peux être fun, mais enfermé dans un coffre, non.
Non, mais avec ton amoureux, peut-être tu t'amuses. J'ai une amie qui a fait l'amour dans le coffre d'une Rolls quand elle était jeune.
Ah oui, alors.
Oui, le bâton ouvert. Ouais.
Quoique moi, j'avais fait l'amour dans une sacoche de mobylette. J'étais jeune à l'époque.
On y croit.
Bon, excusez-nous, Aude Barietti, parce que c'est les grosses têtes et le sujet s'y prête pas vraiment, mais le livre est passionnant. C'est aux éditions du Rocher. On sait que c'est une affaire médiatique qui intéresse évidemment les auditeurs, comme toute l'affaire Daval, d'ailleurs, que vous aviez traité.
Oui,
vous aviez déjà publié précédemment un livre sur l'affaire Daval. Cette fois, c'est Nordal Lelandais aux éditions du Rocher, du procès Noyer au procès Maëlys, qui aura lieu prochainement. Merci, Aude Barietti. C'était le livre du jour. Ah, une question amusante, en tout cas intéressante pour Thierry. Je crois, je ne veux pas me vanter, monsieur Mabille. Je sais que vous mettez souvent en cause le choix de mes questions.
Oh non, je les trouve très bonnes. Non.
Merci, monsieur Mabille. Il était temps que
ça
vienne.
Il veut revenir.
Mais cette question vous intéressera sûrement si vous aimez les jeux de cartes et particulièrement le whist. Je ne sais pas si vous connaissez.
Oui, je connais. Oui. C'est très rigolo.
Le
ça
whist.
Monte et ça descend. On peut aussi l'appeler l'ascenseur.
Ah bah, oui. Vous faites ce que vous voulez dans la vie, mais. Mais il s'agit de retrouver le nom d'un général. Vous allez me dire quel rapport, évidemment. Mais c'est pourtant un général d'Empire, un général français, qui a publié un manuscrit en 1839 qui s'appelle le Vade-mecum des joueurs de whist. Quel est le nom de ce général d'Empire qui a publié le Vade-mecum des joueurs de whist?
On va faire les boulevards.
Attention, c'est les maréchaux.
Il est sur l'Arc de Triomphe, il est sur l'Arc de Triomphe.
Si vous voulez des précisions, effectivement, son nom est gravé sur le côté sud, 21e colonne de l'Arc de Triomphe.
Donc moi, je fais l'aller-retour.
Monsieur Mabillier.
C'est un général vraiment célèbre.
Ah bah c'est un général qui quand même a une rue à son nom.
Deux étoiles.
Enfin. Elle est dans quel arrondissement cette rue?
Mieux qu'une rue d'ailleurs.
Ah bah non.
Une avenue.
Toujours mieux qu'une rue.
Une avenue.
Ils ont une avenue ou un boulevard?
Encore mieux qu'une avenue.
Un boulevard.
Une place.
Non.
Voici Charles de Gaulle.
Une ville.
Non.
Un stade.
Non.
Une station de métro.
Pardon.
Une station de métro.
Une station de métro.
Le général Pompe.
Rue de la Pompe. Le général Dourakine.
Il est mort à 89 ans, donc c'était un vieux général. Il a servi l'empereur, mais après, il a été aussi au service du roi Louis XVIII.
Est-ce qu'on a mis le mot général à la station de métro?
Non.
On a mis que le nom de famille.
Ouais. Duplex.
Ce petit salaud.
C'est dans un bon quartier.
Oui, c'est dans le 15e.
Grenelle.
Et c'est...
Duplex, non. Duplex, non.
La Motte.
La Motte, non.
Piquet.
Piquet.
Mairie du 15e.
Porte de Versailles.
Ségur.
Non.
Charles Michel.
Général d'artillerie, baron de l'Empire, grand officier de la Légion d'honneur.
Robert Kampf.
Grand croix de l'ordre militaire.
Ah, ça m'excite.
attendez.
Mais c'est dans quel arrondissement, Laurent ?
Et pour ceux qui aiment jouer aux cartes, eh bien oui, il a écrit un vademécum des joueurs de whist.
On est dans un quartier chic ou pas ?
Bon, c'est le 14e arrondissement de Paris.
Vers Saint-Gétorix.
Alors, je
le 14e,
vous dire,
c'est ça ?
C'est un quartier, j'ai dû mettre les pieds.
Plaisance.
Le général d'enfer.
Non.
Le général Rochereau.
Non. C'est la ligne 13.
Pernetti.
Le général Pernetti. Ouais. Bonne réponse de Julie Leclerc. Ouais. Le général Joseph-Marie de Pernetti. Vous connaissiez la station de métro, Julie ?
Je connais la rue Pernetti.
Et la rue Pernetti, bien sachez que c'était un général... Oui. Général de division, général d'artillerie, Joseph-Marie de Pernetti a écrit un vademécum des joueurs de whist. On joue comment au whist alors ?
Le whist c'est très sympa parce qu'en fait vous commencez, par exemple si vous êtes 4 joueurs, vous distribuez une carte à tout le monde. D'accord. Et tout le monde doit annoncer avant de jouer le nombre de plis qu'il va faire. Donc, il faut que la somme du nombre de plis ne corresponde pas à la réalité possible.
Vous annoncez combien de plis, Bernard ?
Ça dépend où. Elle est très drôle, Laurent, et ça dépend où.
Bernard, demande une ptose.
Et vous montez comme ça jusqu'à distribuer toutes les cartes et ensuite vous redescendez.
Ah, c'est la bébête qui monte, alors.
Mais c'est très sympathique.
Bah, pour avoir les règles, c'est pas compliqué. Vous demandez le vademécum des joueurs de whist écrit par le général Joseph-Marie de Pernetti qui a une station dans Paris. Une question gastronomique pour réveiller Bernard Mabille.
Mais je ne dors pas, Laurent. Je comptais mes plis. Oh non. Ça peut demander 3 jours.
Beaucoup de courriers aujourd'hui. Pour Edith Malher, qui habite Nantes, en Loire-Atlantique, je vous emmène à Esnandes. Esnandes est un endroit où Madame l'ermite a eu l'idée de sa célèbre recette, une recette que vous connaissez peut-être et dont, évidemment, je vous demande de retrouver le nom, une recette à base d'oignons, de bord des Charentes, de jaune d'œuf, de lait, mais aussi du piment et du curry.
La soupe à l'oignon ?
Non. J'ai évidemment...
Enlevé
le truc principal.
J'ai évidemment omis, on va dire...
L'ingrédient principal.
C'est de la viande.
L'ingrédient principal qu'elle n'a pas inventé, elle. Évidemment, elle a inventé comment accommoder, ouais, si j'ose dire.
La cotriade ?
Non.
Est-ce que c'est pour agrémenter une viande ou un poisson ?
Alors, elle va répondre à la buisson chez un picard, elle. Elle va nous faire croire que...
Non, enfin, elle fait quand même la différence entre une viande et un poisson.
Oui, d'accord, mais bon, c'était tellement drôle.
Non, mais c'est une viande au milieu de tout ça.
Ce n'est pas une viande.
C'est une quiche.
Est-ce que c'est un poisson ?
Attention, je vous demande le nom de la recette. Hein.
Oui, d'accord. Si on trouve déjà l'aliment de base...
C'est vrai.
Ça va nous aider. Est-ce que c'est salé ou sucré ?
Alors, on est en Charente-Maritime, au nord de La Rochelle.
C'est pas des petites saucisses qu'on met dans les huîtres.
C'est des fruits de mer.
Oui, ce sont des fruits.
La mouclade.
La palourde.
La mouclade.
La mouclade. Bonne réponse de Julie Leclerc. En fait, elle a eu l'idée, Madame l'ermite, d'ajouter des nouvelles épices que les bateaux ramenaient d'Inde à Esnandes, la capitale de la moule, dans la rue de l'Église. Est née en 1900, début 1900, dans ce petit bistrot tenu par Madame l'ermite, cette recette de la mouclade.
Connue dans le monde entier.
Oui, le restaurant de la pêche et chocolat, ça s'appelait, est resté pendant longtemps un des grands restaurants de Charente-Maritime. Et quand on allait en Charente, le nombre de Japonais qui demandait...
Mon club.
Des jaunes d'œufs, des oignons, du beurre de Charente, évidemment, du piment et du curry. Voilà. Évidemment, mais il y a un secret en plus que, évidemment, la famille l'ermite n'a jamais donné et qui est transmis de génération en génération.
Bah, c'est pas grave.
La mouclade, par exemple, l'Innoventura.
L'Innoventura
adorait la mouclade. On redemandait que Tony Rossi, quand Tino Rossi est mort. Non, il en a reçu deux fois.
Mais non, qu'est-ce qu'il vient faire, Lino Ventura ?
C'est dans le Wikipédia de la Mouclade.
Oh non, excusez-moi.
Dans le Wikipédia de la Mouclade, c'est écrit « Secret de la Mouclade, précieusement conservé par la famille Lhermitte et transmis de génération en génération. » Ça réside dans la façon de cuisiner cette sauce dont raffolait Lino Ventura et toutes les stars internationales de l'époque.
Ah donc c'est connu dans le monde entier.
Enfin.
Voilà. John Wayne adorait ça.
John Wayne dans Fort Mouclade.
Et qui a tourné la Mouclade de Montenay ?
Et après, il y avait la prisonnière du dessert.
Avec Marilyn Mouclade.
Mais c'est tellement bon.
La mouclade, est-ce que j'ai une gueule de mouclade ?
Tu veux que je te dise ? Oui.
Et le film, le bon, la brute, la mouclade.
Mon cul est international, mais ma mouclade est française.
Monsieur Boulet, pas de souvenirs personnels. Pour Isaac Robert, question suivante. Monsieur Robert Abitrenne, dans l'Ille-et-Vilaine. En 1547,
je m'en souviens.
Quelle célèbre expression est née à cause d'un duel judiciaire devant le château de Saint-Germain-en-Laye ? Je ne peux pas vous donner évidemment le nom du protagoniste, car évidemment il portait le nom qui a donné ensuite l'expression célèbre que tout le monde connaît encore aujourd'hui.
Messieurs les Anglais, tirez les premiers.
Ah oui, un monsieur qui s'appelait Monsieur les Anglais, tirez les
premiers. Ah, c'est
premiers.
Le nom du mec.
Non, c'est un général qui a dit ça.
Est-ce que du coup, ça a donné lieu à un verbe ?
Un verbe, son nom, non. Vous avez dit, monsieur...
La botte de Nevers ?
La botte de Nevers, c'est bien, mais ce n'est pas ça.
C'est pas ça.
Ah non.
La mouclade de Charente.
En quelle année vous avez dit 1500 ?
Oh, 1547.
C'est une expression qui est liée au combat ?
C'est une expression, évidemment, qu'on utilise encore aujourd'hui. C'est synonyme d'habileté, voyez-vous.
Ah. À la fin de l'envoi, je touche ?
Non, 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 non.
C'est
non.
Une expression en plusieurs mots ?
Ah oui, 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 en trois mots. En trois mots.
J'ai une idée. À cette époque, certainement que les duels, c'était à cheval avec des longues perches.
Non, ça s'appelle des tournois.
C'est corrida, ça.
Mais non.
Non, non.
1547, c'était... Non,
c'est à l'épée, effectivement.
Le coup du lapin ?
Ah, le coup du lapin, non.
Alors, donc, par exemple, quand quelqu'un commente les Jeux Olympiques, l'épée,
oui.
Il dit, tiens, quelle habileté, il a fait le coup du...
Ah non, non, pas
le
quand
coup
même.
De... Non.
Deux heures de blonde, je suis crevé, moi.
Surtout que c'est épuisant. Il y en a une là, qui est à côté de moi, sans filtre en plus. Oui, oui.
On l'emploie quand, cette expression ?
Ah ben, on l'emploie encore aujourd'hui.
À quelle occasion ?
Ah ben,
à qui auriez-vous envie de dire cette expression
aujourd'hui ? Oh, j'espère que personne ici ne me fera ça. Parce que c'est déloyal, parce que c'est pernicieux.
Ah d'accord, parce que moi je pensais que c'était un compliment, vu que ça, vous parliez d'habileté.
Ah,
en fait, c'est de l'habileté, mais c'est une façon
de
manipuler.
C'est habile, c'est imprévu, c'est violent. Et Guy Chabot, évidemment, je ne peux pas vous dire son nom de baron, parce que l'expression vient de son nom, mais...
Ah, le baron Uppercut ?
Non, enfin...
mais l'Uppercut, c'est pas dans le dos.
Oui, c'est de la boxe.
Mais le baron Guy Chabot, c'était son nom.
Le père d'Arlette Chabot.
Je ne sais pas, mais en tout cas...
Non, le mari.
Il s'est battu avec la Châtaigneraie ce jour-là. Le roi et toute la cour se sont déplacés pour assister à ce duel. Ils ont proclamé le combat. C'est un héros, H-E-R-A-U-T, qui proclame combat. La Châtaigneraie, il a perdu le duel. Ah. Il pensait le remporter facilement. Ah. Et il a perdu contre le fameux baron.
Il a tiré
on peut appeler
avant.
Franck Ferrand ou pas ?
Ah non, mais écoutez, je vous donne tous les détails possibles, je ne peux pas vous en dire plus. Et il avait prévu de donner un superbe repas le jour même du duel, persuadé qu'il allait gagner.
Oh le con.
Et l'autre a été tellement vicieux.
Exact,
en fait.
Exact.
Ils ont dû congeler le truc.
Et donc c'est un rapport avec le vice,
il
avec
a pris
la manipulation, avec la perfidie.
Et la Châtaigneraie, humiliée par sa défaite, il a arraché les pansements de sa blessure parce qu'il était blessé à la fin du duel et il est mort le lendemain.
Il était trop sûr de lui.
Et le roi de l'époque fut si touché par la mort de la Châtaigneraie que sur l'heure même il indiqua que jamais plus il ne permettrait de duel public. Ce duel est donc le dernier exemple en France d'un duel judiciaire autorisé par la magistrature.
C'est quel roi, Laurent ?
On est en 1547.
Henri IV.
Et il s'agit... ça doit être Henri II ou un truc comme ça. Henri II, Henri II.
Épée Damoclès, mais c'est un grec. Mais non.
Célèbre expression. Un coup déloyal, pernicieux, qui n'existait pas avant.
On le dit au volant de sa voiture.
Oui, attendez. C'est le coup du père François. Le coup du père François.
Un coup de pute.
Mais non.
Chasser le naturel.
Coup de Jarnac.
Le coup de Jarnac. Bonne réponse. Juste sur le gong. Bonne réponse de Bernard Mabille.
Oui.
Qui est qui? Qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL.
Aurélien Blachon est au téléphone. D'habitude, il y a quelques semaines, quelques mois même maintenant, c'était l'heure de la valise à cette heure-ci. Mais on a tout changé dans les grosses têtes. On essaie de perdre nos... Enfin, non, plutôt, on essaie d'en gagner. Mais on essaie de perdre les auditeurs à travers des changements comme ça.
Bonjour Aurélien.
Bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour toute l'équipe.
Bonjour.
C'est pas moi qui viens de vous dire bonjour, c'est mademoiselle Tchakalov.
J'ai reconnu, oui.
Eh oui, qui drague les jeunes.
Aurélien doit être étudiant. Il a une voix très jeune.
Oh, il a 41 ans, alors je sais pas ce qu'il étudie, mais...
Voilà. Il a redoublé beaucoup.
Il a beaucoup redoublé. Oui.
Aurélien, vous allez en tout cas choisir une de mes grosses têtes pour le qui est qui fait quoi. Ce sera les fake news, évidemment, dans la deuxième partie de l'émission. La valise, c'est pour plus tard. Le qui est qui fait quoi? Vous connaissez le principe, Aurélien.
Tout à fait.
Il faut choisir qui, à votre avis?
Je vais choisir Gaël Tchakalov.
Ah bah oui, Gaël Tchakalov.
Merci, Aurélien. Vous êtes célibataire ou pas?
Oui.
Vous êtes un peu kamikaze.
Je plaisante, Aurélien, c'est pour rire.
C'est une journaliste, écrivain tout de même, Gaël Tchakalov. Normalement, elle connaît les noms de ceux qui font l'actualité, donc vous avez fait un bon choix.
Oui. Enfin, ça dépend de la perversité de Laurent Ruquier, vous savez bien comment il fait.
Nous allons d'abord commencer par Bernard Mabille. Bernard,
oui.
Pouvez-vous me dire qui est Gilles Moreton?
Gilles Moreton, c'est un rapport avec le tennis.
Et c'est donc
c'est le président du tennis français.
De la Fédération française de tennis, c'est gagné. Vous restez dans la course, Bernard.
Bravo, Bernard.
Caroline Diamant, pouvez-vous me dire, Caroline, qui est Gilles Boyer?
Moi.
Bah, Gilles Boyer,
moi.
C'est le présentateur du JT de TF1.
C'est Gilles Boulot, ça, vous voyez. Gilles Boyer, c'est le député européen, bras droit d'Édouard Philippe, qu'il conseille, pas toujours bien, mais qu'il conseille. Aurélien, en tout cas, je viens d'éliminer Madame Diamant. Je fais la même chose avec Julie Leclerc, vous êtes d'accord?
Parfait.
Ouais, ça...
qui est Bernard Sens?
Bernard Sens.
Oui, S-I-N-Z.
Ah oui.
Sens, si vous préférez.
Ah, bah, je sais, c'est le coiffeur de Macron.
Le coiffeur de Macron.
Oui. Mais c'était déjà aussi drôle à Europe 1.
C'est le docteur Mabuse du cyclisme, condamné à un an de détention à domicile. C'est lui
à
qui...
À domicile.
Eh oui, qui fournissait un peu comme les Balkany.
Oui,
c'est sûr qu'ils sortent les Balkany.
Oui, c'est vrai. Le docteur Mabuse qui a dopé des tas de champions cyclistes, il a été enfin, ça y est, condamné à un an de détention à domicile. Bernard Sens. Stevie, vous m'entendez?
Oui, je vous reçois.
Eh ben, ah, parfait. Eh bien, Stevie, pouvez-vous me dire, Stevie, qui est Manon Aubry? Ah
oui. Manon Aubry, c'est la fille de Martine Aubry.
Ah oui? Ah
bon? Oui. Sauf qu'elle, elle a remonté le Rhin.
Quoi? Elle est députée européenne France Insoumise. Ah bah. C'est elle qui a affronté M. Macron à Strasbourg lors du discours européen de mardi dernier. Vous êtes éliminé, Stevie. Gaël Tchakalov.
Oui, c'est moi. Bonjour.
Aurélien a misé sur vous, Gaël Tchakalov.
Mais vous me trouvez un truc facile, hein, s'il vous plaît, chérie.
Pouvez-vous me dire, Gaël, qui est
tous chéris.
Alexei Navalny.
Ah bah oui, c'est le Russe qui a été empoisonné par Poutine.
Et qui est en prison depuis un an cette semaine.
Et qui a fait la grève de la faim.
Excellente réponse de Gaël Tchakalov. Jean Benguigui, pouvez-vous me dire, Jean, qui est Kristen Stewart?
C'est honteux si tu sais pas. Hein.
Je sais, Kristen Stewart était la fille du coureur automobile Jackie Stewart qui s'est mise à faire du cinéma maintenant. Et elle est actrice et elle vient de jouer dans Don't Look Up.
Qu'est-ce qu'elle vient de faire, Kristen?
Elle vient d'arriver sur Prime Video.
Elle a une série?
Oui, mais quoi? Qu'est-ce qu'elle joue?
Émilie à Paris.
Non.
Non,
c'est dommage.
Lady
Diana, c'est elle qui joue Lady Diana.
Bah oui.
Vous êtes éliminé, Jean Benguigui. Il me reste donc Bernard Mabille contre Gaël Tchakalov.
Oh là là. Je vais me faire ratiboiser au rétin.
Non, il suffit qu'il élimine Bernard et tu gagnes par élimination.
Il faut que ton candidat gagne.
Ça va pas être compliqué d'éliminer Bernard.
Ben oui, on peut toujours rêver.
Je vous ai dit pourquoi vous jouiez, Aurélien ?
Non.
Non.
Eh oui, parce que là, le suspense bat son plein. Chakalov contre Mabi. Et vous jouez pour un séjour pour deux, séjours exceptionnels, dans un hôtel exceptionnel. 5 étoiles à Val Thorens, le refuge hôtel Pashmina.
Oh, c'est sympa.
Combien de temps
sympa, ça, un écrin douillé de 56 chambres, vous en aurez une des 56. Oh. 2 igloopods sur le toit, avec bain finlandais privé. Pour expérimenter.
Bah heureusement, avec le Covid, que c'est privé.
Pour expérimenter la montagne autrement.
Et moi, je peux gagner un séjour si je trouve la bonne réponse.
Tu gagnes rien du tout.
Vous la fermez et vous me laissez éliminer ma bille. L'hôtel Pashmina, avec accès direct aux pistes de ski des Trois-Vallées, vous montrera son intérieur sur le site internet qui lui est consacré. hotelpashmina.com.
Il est dans le même état quand il dit un truc pour Campanile. Hein.
Bernard, au lieu de dire n'importe quoi, pouvez-vous me dire qui est Georges Forestier ?
On va encore trouver cet embout.
Dis n'importe quoi.
C'est le fils de monsieur et madame Forestier. Et il se balade dans les forêts, il surveille les arbres. C'est un guide forestier.
Un guide, non, c'est Georges, c'est pas guide forestier. C'est Georges Forestier, c'est le biographe officiel de Molière, célèbre historien, qui est la référence en cette année du...
Il est mort, Molière ?
En cette année, et il sera mort en tout cas l'année prochaine, puisque l'année prochaine, on fêtera l'anniversaire de sa disparition, et cette année, on fête l'anniversaire, les 400 ans de sa naissance.
Il est mort à un an ?
Mais oh, on va pas refaire le même coup que mardi dernier.
C'est drôle.
Aurélien, vous avez gagné, en tout
bravo,
cas.
Bravo, Aurélien !
En misant sur Gaël Chakalov, vous partez au Pashmina.
Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
Toujours avec Gaël Chakalov, Jean-Benguigui, Bernard Mabie, Julie Leclerc, Stevie Boulet et Caroline Diamant. Ah, une jolie réplique maintenant, et à vous de retrouver celui qui a eu cet esprit de répartie incroyable. C'est pour monsieur Jean-Luc Tullier qui habite Massny dans le Nord. C'est quelqu'un à qui on dit « N'êtes-vous pas étonné de ce que vous venez d'entendre ?» Et il répondit « Non, ce qui m'étonne, c'est qu'on ait des oreilles pour vous entendre, alors qu'on a des pieds pour vous échapper. »
Sacha Guitry. Oh.
Churchill.
Churchill.
C'était Lino non. Ventura, Madame l'Ermite, après une mouclade.
Ah, il a écouté l'émission tout à l'heure.
Non.
Est-ce que ça a été prononcé en français ?
Alors, en français... Je ne suis pas certain. Non, j'ai envie plutôt de vous dire en grec, voyez-vous.
Oula.
Ah, c'est Platon.
C'est pas Platon.
Socrate.
Socrate.
Ah, Diogène.
Diogène.
Aristophane. Diogène.
Aristophane.
Nana Mouskouri.
Nikos.
Là, on recherche un philosophe grec. Vous m'avez déjà dit des tas de noms, mais pas un des principaux.
Socrate.
Ah ben, Pline l'Ancien.
Archimède.
Non. Pline le Jeune.
Non.
On a dit Sénèque.
Un des penseurs les plus influents.
Alain.
Platon.
Que le monde occidental est connu. Avec Platon, l'autre.
Aristote,
bien sûr. Excellente réponse de Caroline Diamant. Aristote. Vous m'aviez dit Aristophane,
c'est
mais
vrai.
Pas ah oui. Aristote. Une question musicale maintenant pour Jean-Pierre Josse qui habite Soucy. Retrouverez-vous le nom de ce compositeur ? Compositeur derrière le nom duquel on ajoutait souvent le grand, parce que sa famille comptait de nombreux musiciens.
Ah, Michel.
Non. J'étais sûr.
Il est sûr.
Il y en a un qui va me dire Michel. Non, là, on est quand même, pour tout vous dire, on est à mi-chemin, à cheval, hein, entre le 17e et le 18e siècle.
Bach.
Non. C'est quelqu'un qui est mort quand même à 64 ans. Donc, vous voyez, il a eu le temps d'être à cheval entre les deux siècles, puisqu'il est né en 1668 et mort en 1733. Et c'est vrai que derrière son nom, on ajoutait le grand pour le distinguer des autres membres de sa famille.
Sa famille qui était déjà Couperin.
Pardon,
Couperin.
Couperin, François Couperin.
Bravo.
Bonne réponse. Excellente réponse.
Je dis Jean Benguigui le Grand.
Bravo, monsieur Benguigui, de connaître François Couperin.
Bah, j'ai pas connu personnellement. Hein.
Non.
Bon, c'est pas ma période préférée musicalement.
Si. Oh là là, le
la musique baroque. Ah. Non, moi j'ai du mal.
Ah oui, oui. Julie, vous aimez ça?
Bah bien sûr, j'adore.
Ah oui, le soir, Monsieur Gérard Leclerc met ses chausses. Et devant le feu de cheminée.
Un petit clavecin.
Exactement.
Il fait un petit thé
avec
famille,
leur
moi.
Propre vin.
Il fait un petit thé au clavecin.
J'adore. Il faut aller.
La flûte à Schtroumpf fait au lit.
Oh, la flûte, c'est quoi ça?
Oh, la flûte à Schtroumpf.
Ça va pas, non?
Il s'agit maintenant de retrouver le nom d'un cowboy.
Wow.
C'est une question pour Chantal Mortier qui habite Vénier, France. C'est dans l'Indre-et-Loire. Mais c'est un cow-boy qui a inspiré des romans, des bandes dessinées, des séries télé, qui est apparu dans des dizaines de films. Mais attention, dans les années 30 et 50, il a même été incarné dans le fameux film que tout le monde connaît, celui-là, le film de Cécile B. 2000, sous le plus grand chapiteau du monde.
Lucky Luke.
C'est Charlton Heston qui était le héros de Sous le plus grand chapiteau du monde.
Ça n'est pas ma question.
Il était très bufaloniste.
Vous l'avez posé la question
la gueule.
Là.
Pardon.
Vous avez fini de poser la question, on peut essayer de répondre. Moi, je dirais Hope Alone Cassidy.
Excellente réponse de Bernard Mabille. Alors là.
Ben alors.
Ben c'est les bandes dessinées. T'avais les BD aussi, toi, de
c'est John Wayne.
J'ai toujours aimé les BD, oui.
Hope Along Cassidy. Alors, oui. Franchement, je pensais donner un chèque RTL avec ce nom-là de cow-boy.
Moi, vous connaissez pas. Entre lui et
personne. Alors, tout le monde ne connaît pas Hope Along Cassidy.
Ah non, moi, je connais pas.
J'ai une chance de cocu aujourd'hui. Je peux appeler ma femme.
À mon avis, elle est en train de préparer une mouclade pour ce soir.
Mais pas avec toi.
Ma question suivante pour Daniel Cotillard, qui habite Crécy-la-Chapelle, en Seine-et-Marne, concerne quelqu'un qui s'appelait Claude Ambroise Seurat. Alors, il est né en 1798, il est mort en 1841, ce qui est assez vieux d'ailleurs, vu sa particularité à ce Claude Ambroise Seurat, parce qu'il faisait de nombreuses tournées, il était même devenu une attraction spectaculaire. À cause de quoi ?
Il n'avait ni bras ni jambes.
Ah si, il avait des bras et des jambes.
Il peignait, il faisait de la peinture.
Il était sur les foires.
Oui,
il faisait les cirques. De foire.
À l'époque, les cirques, un peu le freak show.
À l'époque, vous avez...
il avait deux bites.
Il était.
À l'époque, sur les places publiques, vous voyez, vous aviez des spectacles de foire.
L'homme le plus fort du monde.
C'était non.
Il était rémouleur.
Est-ce que c'est une malformation?
Un rémouleur. C'est un spectacle de voir un rémouleur.
Il mangeait du verre.
Il chantait d'une manière particulière?
Non, il ne chantait pas.
Il jouait de l'orgue de Barbarie.
Non.
Il était pétomane.
Non.
Il crachait
mais
du
non,
feu.
Mais vous n'avez pas entendu, il a dit dans la question qu'à cause de sa particularité, il est mort jeune. Tu meurs pas jeune parce que tu joues de l'orgue de Barbarie.
Oh, mais arrête.
Bah, le cracheur de feu, si, il peut mourir jeune. À
non,
coup de...
Laurent,
il se mettait l'épée dans la gorge, là.
Une malformation physique.
Alors, malformation, je ne suis pas certain qu'on puisse aller jusque-là, mais enfin, pas loin tout de même.
Ah, c'est des siamois? Des frères siamois?
Il avait une grosse tête.
Il avait 20 bras.
Non, 20 bras, non, une grosse tête, non.
Lilliputien, Lilliputien.
Non, mais c'est
alors, Lilliputien, non, parce qu'il faisait, il mesurait quand même 1m63.
Ah oui.
C'est déjà grand pour moi, oui.
Ce n'est pas sa taille qui est impressionnante.
Exact.
Il était très fort.
Il rentrait dans le coffre d'une
voiture.
Est-ce
que c'est son poids qui est impressionnant?
Oui.
Donc c'était l'homme le plus gros du monde?
Non.
Le plus léger.
Le plus petit, le plus léger. Lilliputien.
Le plus maigre.
Le plus maigre du monde. Je vous ai dit qu'il faisait... Pas le plus petit, il fait 1m63, vous les faites
mais c'est
pas...
le plus maigre.
Le plus maigre du monde.
Ouais. Il pesait 22 kilos.
Il pesait 16 kilos pour 1m63.
Ça, ouais. Oh là là.
On le surnommait...
Mais
le...
pas à la naissance.
On le surnommait le...
Mais non, allez. Va sortir un gamin d'en mettre 60, toi. Bah, on est déchiqueté. Hein.
On le surnommait le squelette vivant ou l'homme anatomique. Ouais. C'était comme un squelette. Il avait rien sur les os, en quelque sorte.
Il aurait été formidable dans une pub comme j'aime.
Absolument. Claude Ambroise Seurat pesait 16 kilos. Mesurait 1m63. C'est un phénomène de foire surnommé le squelette.
RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news.
Marie Champigny habite Saint-Père-Marcampoulet. Saint-Père-Marcampoulet, c'est dans l'Ille-et-Vilaine. C'est bien ça, Marie ?
Exactement, à côté de Saint-Malo.
Comment on appelle les habitants de Saint-Père-Marc-en-Poulet ?
Les Péréens et les Péréennes.
Ah, tout simplement, voilà. On oublie le poulet dans ces cas-là, alors Marie, c'est bien ça. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis retraitée.
Retraitée, j'espère que vous écoutez les grosses têtes régulièrement.
Régulièrement.
Eh oui, parce que ça devrait vous aider, vu qu'aujourd'hui, les fake news consacrent le parcours, le CV, évidemment, de mes camarades grosses têtes. Chacun va vous raconter un peu de sa vie, son parcours personnel ou professionnel. Et seule une grosse tête va vous dire la vérité, les autres vont vous mentir. Vous connaissez le principe, Marie.
Oui, tout à fait.
Si vous trouvez la grosse tête qui vous dit la vérité, vous partirez dans un hôtel 4 étoiles, côte ouest. Ah, c'est pas mal, attention, c'est au Sable d'Olonne, face à la mer, adossé à la Pinède, un décor de charme, emprunt aux plus belles croisières, un univers cosy, feutré.
Quoi ? Il est fou, mais vous voulez pas de l'orgasme. Il est
moins bien, moins bien que tout à l'heure, quand même.
Cette voix suave.
J'essaie de rappeler à Julie ce que c'était ce métier. Faites-le plein d'air iodé et d'énergie et retrouvez le goût de vos envies. Buller, flâner, rêver, savourer, s'évader, se détendre. Toujours face à la mer. Un oasis entre mer et Pinède. De grands espaces pour respirer, s'évader. 3 hectares.
Toujours face à la mer, vous voulez dire l'hôtel ne change pas d'endroit pendant la nuit.
Non. 3 hectares de port. De parc, pardon.
Et le parc est face à la mer.
3 hectares de parc privé avec forêt, espace vert. Vous pourrez vous balader au calme. Il y a une plage privée avec une piscine d'eau douce à fond de sable face à la baie des Sables d'Olonne.
Mouclade à volonté.
Génial.
Hôtel. Une piscine à fond de sable.
Ouais, c'est génial, t'imagines.
Mais non, mais tout le kiff de la piscine, quand tu vas dedans, c'est de pas remonter avec les pieds pleins de sable.
Eh bien, touchez pas le sol.
Non, mais c'est peut-être du sable peint, c'est peut-être pas du vrai sable.
Hôtelcôteouest.com, si vous voulez voir les photos de cette piscine et les chambres magnifiques qui vous attendent, Marie. Êtes-vous prête à entendre mes grosses têtes ?
Tout à fait.
Nous commençons par Caroline Diamant. Attention, 5 vous mentent, une seule vous dit la vérité.
Mon vrai prénom n'est pas Caroline, mais Laure. Mais j'ai changé parce que Laure avec Diamant, ça faisait trop luxueux.
Jean Benguigui.
Jean-Phi et moi allons reprendre la chanson « Les gens du Nord » pour un album au profit de la lutte contre la discrimination.
Julie Leclerc.
C'est pour moi que Patrick Topalov a écrit la chanson « La vie, c'est pampan cucu » et « La saga des spermato ».
Gaëlle Tchakaloff.
C'est moi qui étais avec Jean-Michel Blanquer à Ibiza. Nous sortions du Pacha quand il m'a dit « Merde, j'ai oublié d'annoncer le nouveau protocole sanitaire dans les écoles ».
Bernard Mabille.
J'ai une fille qui s'appelle Blanquette. Et 2 garçons qui s'appellent Bourguignon et Navarin.
Je demande pas l'auteur.
Stevie.
Stevie. Alors, j'ai un point commun avec Jean-Phi Janssen. Je suis ch'ti.
Qui vous a dit la vérité ?
Alors, j'élimine déjà Gaëlle Tchakaloff.
Vous pensez qu'elle n'était pas avec Jean-Michel Blanquer, Gaëlle Tchakaloff ?
J'élimine Julie, j'élimine Bernard, Caroline.
Est-ce qu'elle s'appelle Laure de son vrai prénom ?
Je serais surprenant que ses parents l'aient appelé comme ça, mais bon. Et Jean-Benguigui.
Les gens du Nord.
Pas le faire.
Et que Stevie puisse être né dans le Nord, ça pourrait être possible.
Alors, il faut choisir et trancher.
Je veux dire que Stevie est né dans le Nord.
Êtes-vous né dans le Nord, Stevie ?
Ben oui, bonne pioche, je suis né à Lille.
Eh oui,
c'est vrai ? Oh, génial !
Eh oui.
Bravo ! Ah ouais. Bravo, Marie, c'est bien.
Vous allez face
comme
à
de
la
Gaulle.
Mer.
Il n'y a pas d'hétéro dans le Nord ?
Effectivement, ce n'est pas le seul point commun qu'il ait avec Jean-Phi Janssen. Et Stevie est bien ch'ti.
Oui.
Ah alors ?
Mais oui !
Stevie !
Je ne savais pas.
Caroline ne s'appelle pas Laure, Gaëlle n'était pas Ibiza, les enfants de Bernard Mabille ne s'appellent ni Blanquette, ni Bourguignon, ni Navarin. Quant à Julie, non, elle n'a pas inspiré à Patrick Topalov ses chansons, qui existent en revanche.
Ah bon hein.
Oui. Ah oui, la vie c'est pampan cucu, écoutez.
Pampan cucu, adada, pampan cucu, pampan cucu, je vais faire pampan cucu.
J'ai été avec ce mec.
C'est l'époque où vous étiez fiancée avec lui, Julie.
Non, je ne connais pas cette chanson.
Et il a aussi écrit la saga des spermato.
Encore moins.
T'es avec lui, Julie, là?
Attendez.
J'ai honte.
Quand même, de tous les ex qu'on peut avoir,
c'est le pire.
C'est le pire. C'est-à-dire que, ni physique. Parce que le mec pourra avoir un physique pas évident.
Non, mais il était drôle. Il était
rigolo. Pourra avoir un talent d'écriture, tu vois, et avoir été, par exemple, Léo Ferret. Non.
Tu t'en fais.
C'est gentil de comparer le singe de Léo Ferret avec Julie.
Oh, c'est pas ça que je faisais. Non. Je parlais des chansons. Pas ça.
En tout cas, bravo, vous avez finalement trouvé la bonne réponse, oui. Marie. Il y avait des pièges, mais en tout cas, Stevie est bien ch'ti. En tout cas, il est né à Lille. Je ne sais pas si naître à Lille suffit à être ch'ti.
Ah, je ne sais pas, à mon avis, il faut vivre le ch'ti.
Il est plus manceau aujourd'hui que ch'ti. Mais peu importe, Marie, vous partez en tout cas dans ce magnifique hôtel 4 étoiles, Côte Ouest, au Sable d'Olonne. Deux questions musicales maintenant, si vous voulez bien. D'abord pour Cyrielle Toscane, qui habite Cannes. Ah. Je vais vous demander le nom de celle qui nous a quittés il y a seulement 20 ans. On pourrait croire que c'était il y a plus longtemps que ça, mais non, c'est bien il y a 20 ans qu'elle est morte. Il faut dire qu'elle a chanté jusqu'au bout. Elle a même chanté en fauteuil roulant dans les années 90. Oh là. Mais de quelle chanteuse?
Gloria Lasso.
Sheila.
Bibi.
Oh non, mais vous êtes malade.
C'est quand même pas Miss Tinguette.
Ah non, de elle quelle chanteuse morte à l'âge de 81 ans?
Elle est pas
parle-t-on.
Elle n'était pas française.
Elle n'était pas française.
Bien sûr qu'elle n'était pas française.
Mais elle est morte en 2002.
Et nous parlons d'une américaine.
Et oui, morte le 21 janvier.
Nina Simone.
Eh bien, alors je pense que c'est pas Nina Simon,
non.
C'est Nina
Dionne Simon. Warwick.
Non.
Et c'est peut-être... elle était chanteuse de jazz.
Oui.
C'est pas Ella Fitzgerald.
C'est Ella Fitzgerald.
Non.
Alors c'est l'autre. C'est Sarah Vaughan.
Sarah Vaughan.
Non. Attendez, Sarah Vaughan. Nina Fitzgerald.
Celle qui a...
grande chanteuse de
mais
jazz.
Oui, grande oui, femme.
C'est
oui.
La troisième. On dit toujours Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald et Billie Holiday.
Billie Holiday, voilà. Oui.
Ce n'est pas Billie Holiday.
Non, non, non.
Elle a chanté jusque dans les années 90, parfois en fauteuil roulant. Elle étonnait encore le public et les critiques après des années de mauvaise santé due à une addiction, évidemment, à l'alcool et aux tranquillisants. Elle a fini par mourir en 2002 à l'âge de 81 ans à Los Angeles. Et il s'agit de...
Attendez, elle a chanté des standards de jazz.
Et d'ailleurs, effectivement, on va écouter un standard qu'elle a. Ah, vous voulez, sa voix peut vous aider?
Bah, évidemment.
Essayons.
Never know how much I love you. Never know how much I care.
Diana King?
Non.
Non.
Diana Ross?
Non.
Non.
Ah. Aretha Franklin.
Ah, même la voix ne vous aide pas.
Si, si. Franklin. C'est elle est blonde.
Oui, elle est blonde.
Elle est blonde, elle, non, je vois sa coiffure.
Ah, Peggy? Peggy? C'est Peggy quelque chose.
Peggy Soul.
Peggy Lee.
Bonne réponse de Julie Leclerc, aidée par Stevie. Écoutez Peggy Lee.
Moonlight's of the night. I light up when you call my name. And you know I'm gonna treat you right. You give me fever.
C'était bien quand même. Hein.
Ouais, c'était génial.
J'ai une autre question musicale à l'occasion de la sortie de ce magnifique album. 50 ans de chansons françaises. Je dis magnifique parce que c'est un album RTL. Et
on... Ça, c'est de la bonne pub. Ouais.
On trouve 5 CD à l'intérieur.
5 ?
Oui, 5 CD avec les plus grandes chansons. 5 x 21, enfin, ça fait plus de 100 chansons, hein, voyez, ouais. Au total. Alors, ça va de, des chanteurs d'aujourd'hui, 105. Vianney, Julien Doré, jusqu'à Georges Moustaki, des choses plus anciennes. Vous avez Lio, vous avez Zaz, vous avez Stromae, Michel Delpech, c'est très, très varié, évidemment. Mais il y a aussi une chanson qu'on a peut-être oubliée, chanson d'un groupe. Et je vais vous donner les noms des deux personnes qui composaient ce groupe. Mais retrouverez-vous et le nom du groupe et le nom de la chanson. Rachel Hortas et Eric Tabucci.
Oh là là.
C'est les mini...
Il était d'une fois.
Non, il était
d'une fois. C'est pas Chagrin d'amour.
Non, c'est un duo, vous voyez.
Ah, c'est un duo.
Rachel Hortas et Eric Tabucci.
Bah, Sheila et Ringo.
Non, pas du
tout. Ah, Lily Cube.
Non. C'est vrai que c'est le tube, peut-être pas le moins connu, mais en tout cas, celui auquel on s'attend le moins sur cette magnifique compile. Vous avez Loane, vous avez Grand Corps Malade, vous avez Christophe Willem, Bernard...
Tommy Chardin.
Non, Benjamin...
Niagara.
Benjamin Biolay. Niagara, non.
Pensez-vous qu'on pourra le chanter quand on saura
vous, je pense, Caroline Diamant. Et d'ailleurs, il y a un indice dans les deux noms que je vous ai donnés. Rachel Hortas et Eric Tabucci.
Eric Chardin ?
Non.
Eric,
non.
Ils ont fait des tubes dans les années 4, début des années 90.
Non, mais vous êtes sur une piste, monsieur.
C'est pas celui qui, ceux qui chantaient « Besoin de toi », envie de...
Les
deux, là, les deux.
Peter et Sloan.
Oui, Peter et Sloan.
On n'aurait pas mis ça sur une compil RTL.
Les vaches made in Normandie.
Mais c'est Stone et Chardin.
Mais non, mais c'est de quelle époque ce
90, début des années 90?
Alors, c'est dans les années 80, évidemment, que ce titre...
Donc, top 50.
Ah oui, oui, c'était dans le top 50, effectivement.
C'est Jacques Higelin et Brigitte Fontaine.
Ah, est-ce que ce sont deux mecs?
Non, un homme, une femme, et numéro 10 des ventes en février 1987.
Alain Barrière et Noël Cordier?
Pas du tout, ça, non. C'est Tu t'en vas, ouais, dans les années 60. Oui.
Attendez.
Mécano?
Mécano, non.
Donnez-nous une chanson connue de ce...
Bah non, ils en ont fait qu'une.
Partenaire particulier?
Partenaire particulier, non, mais on est dans le genre.
Lily Cube?
Lily Cube, ça, c'est
mais non.
Après Lily
Cube. Ah non, c'est les autres cinglés, là. Attends. Les Forbans.
Non, mais non.
Mais non, c'était des mecs.
Ah, c'est Chagrin d'amour.
Non plus, non.
Ah, oh, bah non.
C'est Grégory.
Je vous ai dit que dans les noms que je vous ai donnés, il y avait tout de même un indice. Rachel Hortas et Eric Tabucci.
C'est
mais
Eric,
oui, qu'on est
Eric.
Con. Ils ont pris les ta.
Écoutez ce que vous dit ma bille.
Qu'est-ce que t'as dit?
Il y a Eric.
Les Eric.
Ah. États d'Amérique.
Eric et Rachel.
Les États d'Amérique, ils chantaient là.
Rachirik.
Les
États d'Amérique.
Oui, on a la chanson, on n'a pas le.
Les États d'âme, Eric.
L'Amérique. C'est Joe Dassin et.
Des États d'âme, Eric.
Eh oui, vous avez trouvé la chanson, c'est déjà pas mal.
Eh oui, eh oui.
Mais comment s'appelait le groupe?
Ah zut.
C'est en deux mots.
Les chaussettes noires?
Non,
non, mais
c'est rien, je dis. Il n'y a pas Eddie Mitchell.
Ah, vous m'avez trouvé la chanson, on peut même en écouter un extrait le temps que vous retrouviez le titre. Connaissez et que ça méritait bien d'être dans la compile.
Oui.
50 ans de chansons françaises.
Ah, c'est pas Gold, non.
Mais il vous reste à trouver le nom du groupe.
C'est trop bête.
30 secondes.
Popcorn, non.
Popcorn, non. Non.
Les Poppies.
Et peut-être que dans le public. Les Poppies. Peut-être que dans le public, quelqu'un aura la réponse et touchera 100 euros.
Gilbert Montagnier.
Gilbert Montagnier, non.
Patrice et Mario.
Patrice et Mario. Monsieur Benguigui.
C'était pas le fils de Pierre Richard, en plus?
Ah non, non, ça c'était Blues Trottoir.
Ah, c'est ça, c'est
le fils de Pierre Richard.
C'était très joli, Blues Trottoir.
Vous pouvez nous donner les initiales des deux mots?
Ah non, les initiales des deux mots, sûrement pas. Rachel Hortas et Eric Tabucci. Qui d'abord était membre d'un groupe qui s'appelait les Toco Boys, mais ce n'est pas sous ce nom qu'ils ont sorti les États d'Amérique. Est-ce que quelqu'un a le nom du groupe dans la salle? Je vois trois mains qui se lèvent.
J'en
Stevie.
Vois quatre.
Quatre. Qui dit mieux?
Eh bien, je te dis, monsieur. Vous appelez comment?
Sébastien.
Vous arrivez d'où?
De Vincennes.
Et vous faites quoi dans la vie?
Responsable aux ressources humaines.
Ça se voit un petit peu.
Dites, on n'est pas là pour draguer, on est là pour avoir la réponse.
Il est trop beau, j'en profite. Alors, la question, la réponse à la question?
Luna Parker.
Luna Parker, excellente réponse. 100 euros pour vous, bravo monsieur. Une question pour Christophe Fabrice, qui habite Quiberon. Où a-t-on vu la dernière fois Georges Mallory en 1924?
Sur son bateau?
Non.
Sur la Lune.
Au pôle Nord.
Au pôle Nord, non.
Est-ce que la dernière fois qu'on l'a vu, c'est juste avant sa mort?
Bah oui, ou bien... souvent.
Non,
souvent,
ça peut être longtemps avant sa mort. Par exemple, Greta Garbo, on ne l'a pas vue longtemps avant sa mort.
Vous écoutez encore ce qu'elle dit, vous?
Non. Elle nous a perdu.
Est-ce que c'est un aviateur?
Un aviateur,
non. Mais c'est Jean Mallory dont vous parlez?
Un explorateur?
Georges Mallory.
Un explorateur?
Un explorateur, on peut dire ça, oui.
Oui, c'est l'ambassadeur des pôles.
Non, ambassadeur des pôles, non.
Il s'est perdu dans le Sahara?
Alors, explorateur, on va préciser tout de même. Parce que
il était en Amérique du Sud.
Il était avec Charcot.
Il n'était pas du tout en Amérique du Sud.
Il était au Groenland.
En Afrique?
Vous avez dit en quelle année? En 1929, je sais.
24.
Il était au canal de Suez.
En 1924, voyez-vous.
Eh ben, il
est en
Égypte?
En Égypte, non.
Au Groenland. Alors, peut-être que c'est lui qui a accouché mon père, qui est né cette année-là.
Il était en Océanie?
En Océanie, non.
Il a fait l'ascension de l'Everest? Il était avec...
Sir Hilary.
Herzog.
Ah, mais il était, oui, avec une expédition.
En tout cas, il voulait escalader le mont Everest. Et effectivement, les quatre mots les plus célèbres de l'alpinisme sont « because it's there », parce qu'il est là. On ne l'a jamais retrouvé. La dernière fois qu'on l'a vu, c'est effectivement quand il a tenté d'escalader l'Everest, George Mallory. Bonne réponse de Julie Leclerc.
Mais... ils ne l'ont toujours pas retrouvé.
Ça se trouve, il n'est pas mort.
Atteinte possible du sommet, hein, c'est écrit atteinte possible, parce qu'on ne sait pas s'il est arrivé.
On l'a cherché chez Picard surgelé.
Non, mais avec le changement climatique, on va le retrouver forcément. Ouais. Si les glaciers fondent.
Mais c'est terrible.
On va retrouver plein de cadavres.
Oui, mais on les retrouve quand même.
Ah, on les retrouve. Moi, j'en ai retrouvé deux mardi.
Non, mais parce que ça se trouve, il a même jamais essayé de grimper.
Oh, écoutez, pourquoi tout remettre en question à chaque fois, Madame
Diamant ? Parce que moi, en ce moment, on est entouré de thèses complotistes.
Pour Gaëtan Budoir, j'enchaîne dans ces cas-là. Monsieur Budoir habite Bondy en Seine-Saint-Denis. Pouvez-vous me dire qui fut écorné par un taureau, lui laissant une difformité à la lèvre supérieure gauche ?
Wow.
À 7 ans, en
Attendez,
effet.
Attendez, gauche ?
Oui.
C'est Nimeño 2.
Pas du tout.
Manolette ?
Vous laissez peut-être la suite de la question ?
Ben oui.
Les réponses.
Mais pourquoi vous me regardez comme ça ? J'ai rien fait, moi.
Parce que dès que je parle de taureau, je vous regarde, Bernard.
Ça, c'est plutôt flatteur. Oh,
lui, il était masculé.
Blessé d'un coup de corne, lui laissant une difformité à la lèvre supérieure gauche. À 7 ans, il était doué d'une telle force qu'il avait voulu se mesurer à un taureau qui lui a écrasé le nez aussi d'un coup de sabot. Oh bon. Enfin, il fut renversé par un troupeau de cochons et il manqua de se noyer et de contracter dans sa jeunesse la petite vérole dont il a conservé les traces sur son visage grêlé. Mais de qui s'agit-il ?
Dominguez.
Mirabeau.
Manolete.
Non.
Est-ce que c'est un homme d'État ?
Non. Ah, un homme d'État, je suis obligé de vous répondre un peu oui quand même.
C'est
oui.
Ulysse.
Ah non, pas Ulysse. Non.
En tout cas, il n'est pas torero.
Ah non, pas du tout.
Il n'a pas existé.
Pas du tout.
Bien il n'a pas existé.
Mais bien sûr qu'il a existé.
C'est Pancho Villa.
Non, pas de
Est-ce que c'est un homme d'État Colomb dont le nom est associé à la Révolution française ?
Oui, madame.
Il a été piétiné. Mirabeau.
Mirabeau,
mais,
non.
Danton. Mais non, mais c'est, on le sait.
Danton.
On le
sait.
Danton.
Bravo.
Bonne réponse de Bernard Mabille.
On peut quand même dire que j'ai aidé ou pas ?
Danton avait été blessé d'un coup de corne, ce qui l'avait effectivement rendu blessé. Il avait un visage terrible.
Ah oui, mais je ne savais pas que c'était parce qu'un taureau lui avait foncé dessus.
Eh bien voilà, bah maintenant vous le savez, effectivement.
T'as pas vu sa photo ?
Danton.
Si, je savais qu'il était difforme.
C'est pas une photo, monsieur Mabille. Ne lui faites pas croire que la photographie était inventée.
On peut tout lui faire croire.
Je regarderai la statue.
Excuse-moi, de vous tous, je suis sûr que c'est moi qui ai le plus gros cul.
Le cul se voit, le i est très discret.
C'est-à-dire que le...
Oh, non.
Moi, je dirais même plus que le i se cache derrière le cul.
Une autre question, si vous le voulez bien, et ce sera la dernière question avant l'invité mystère. Pour Pascal Minard, qui habite Lardy, dans l'Essonne, je vous demande de retrouver le nom de cet historien de la littérature française qui se prénommait Laurent. On connaît plus son nom que son prénom, voilà pourquoi je ne vous donne que le prénom de Laurent, mais Laurent n'a pas travaillé tout seul. Il a longtemps travaillé avec André. Ils s'étaient rencontrés l'un et l'autre au lycée Louis-le-Grand à Paris. De qui s'agit-il ?
Lagarde et Michard.
Lagarde et Michard.
Bravo.
Excellente réponse. Il y en a qui sont encore en train d'essayer de comprendre la question.
Ouais, alors nous, on est perdus. C'est qui, ce Lagarde Michard ?
C'est les livres scolaires.
Mais comment vous voulez qu'ils sachent ?
Bah, je suis désolé, je n'avais pas ça, moi.
Lagarde et Michard. Laurent Michard et André Lagarde, professeur de lettres supérieures au lycée Louis-le-Grand et auteur de manuels scolaires, effectivement longtemps nommé tout simplement le Lagarde et Michard. Bravo, monsieur Benguigui. Vous nous avez fait économiser quelques chèques RTL encore aujourd'hui.
Les grosses têtes cherchent l'invité mystère. Sur RTL.
Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous auriez retrouvé la gare des Michards ?
Oui.
Oui.
Oh là là,
ça a l'air sérieux. Hein.
C'est un écrivain.
Êtes-vous écrivain ? Demande Gaël Tchakaloff.
Oui.
Êtes-vous égaré aux grosses têtes ?
Non, j'adore.
Ah, c'est vrai ?
Êtes-vous déjà venu aux grosses têtes ? Non pas comme invité, mais comme participant.
Ni l'un, ni l'autre.
Je lui ai proposé, en revanche.
Ah oui ?
Ah, donc il doit être sympathique, intelligent et drôle.
C'est pas une référence, tu sais.
Si c'était les trois critères, il n'y aurait pas grand monde ici.
C'est ce que je viens de dire.
Non, mais oui. Puisque vous avez déjà des cons.
Est-ce que
dans
vous êtes éditeur?
Ah non, Dieu préserve.
Donc vous connaissez bien les éditeurs.
Stevie Boulet propose Bernard Werber. Êtes-vous Bernard Werber?
Ah, j'aimerais bien.
Vous n'êtes pas Bernard Werber, mais c'est amusant parce qu'il y a quand même un lien avec le premier indice musical que je m'apprêtais à donner à mes camarades grosses têtes. La saga des gnous chantée par Louis Bertignac. Vous avez bien contribué à l'écriture de cette chanson?
Absolument.
Bernard Mabie propose Sylvain Tesson. Êtes-vous Sylvain Tesson?
Ah, j'adorerais ça. Ah,
oui, voici un deuxième indice musical.
J'irais bien refaire un tour du côté de chez Swann, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne et se laisse t'embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers.
Ah, Proust, c'était il y a un peu plus de 10 ans, c'est bien ça, invité mystère?
Il y a 9 ans.
9 ans. Caroline Diamant vous a reconnu. Bravo, Caroline.
Eh oui, parce que je sais qu'il adore cet écrivain à qui il a consacré un ouvrage.
Ah, avec son père, c'est
Est-ce qu'on peut vous qualifier d'écrivain voyageur?
Non.
Écrivain philosophe?
Peut-être.
Bernard Mabie propose François Hollande.
Bah oui, Dave Hollande.
Eh bien oui, je suis François Hollande.
Bon, ça pourrait, il n'a pas grand-chose à faire en ce moment. Hein.
Oh non.
Mais vous n'êtes pas François Hollande. Voici un troisième indice musical. Ah, c'est un générique d'émission, ça, Invité Mystère.
Je vois très bien qui c'est.
Une émission que vous animez toujours?
C'est une émission que j'anime toujours, depuis 13 ans.
Bernard Mabie vous a identifié, Julie Leclerc aussi, ça fait déjà trois grosses têtes. C'est pas si mal, dites donc. Stevie propose Daniel Picouli. Êtes-vous Daniel Picouli?
Ah non, là aussi, je serais ravi.
Mais il veut être tout le monde.
Oui, c'est son métier.
Et vous ne proposez que des gens formidables.
Mais c'est une
Est-ce que vous voulez être Caroline Diamant?
Bien sûr, d'abord.
Oh non, c'est évident qu'il ne veut pas être Caroline Diamant.
C'est une émission radiophonique ou télévisuelle?
Laquelle?
L'émission que vous animez.
C'est une émission à la télé.
Vous avez fait de la radio pendant longtemps, mais c'est vrai que là, c'est plutôt à la télévision qu'on vous voit. Et c'était le générique de cette émission télévisuelle sur Arte, c'est bien ça?
C'est ça.
Voici un autre indice musical.
Yo, la clique, moi c'est Platon, je représente la Grèce antique. Entre la sagesse et moi, c'est pas un amour platonique. Mes sujets de prédilection, la vérité, la raison. Si tu veux connaître la suite, pas besoin de mater les autres saisons. On peut résumer ma pensée sur un ticket de métro. Je ne sais qu'une chose, je ne sais rien. Pour certains, c'est déjà trop. Comme ceux qui préfèrent à l'école, rire à la taverne. À qui je voudrais expliquer l'allégorie de la caverne. On vit sans le savoir dans une grotte aux parois sombres. Devant nous, des ombres dansent. Nous pensons
que voilà un rap que vous appréciez, j'imagine, Invité Mystère.
Ouais, c'est pas mal.
Ah, c'est pas mal. Un rap philosophique. Le rap philo, très précisément. Gaël Tchakaloff cherche encore Stevie Boulet.
Mais oui, je ne l'ai pas du tout.
Et Jean Benguigui, je suis très surpris.
Mais le nom, je sais qui c'est, le nom ne vient pas.
Ah ben voilà, ça arrive ça.
Ça arrive.
Alors je peux vous aider. Là, je vais dégainer, vous ne m'en voudrez pas.
Allez-y, Laurent.
Invité mystère, je vais dégainer l'indice qui tue.
Et j'aime les notes au coup de miel dans le prénom de Raphaël. Je les murmure à mon réveil entre les plumes du soleil. Pour que l'âme jaune soit belle, je me parfume Raphaël.
Même Stevie a trouvé.
Oui,
bien sûr.
Vous êtes canon.
Je pense que vous avez trouvé là, Jean-Benguigui et Stevie.
Oui, mais je l'avais. Mais
oui, bon, bah, ça va nous prendre pour une quiche la diamant.
Ah, bah non, Stevie, vous l'avez pas du tout. Il propose le chanteur Raphaël.
Mais non. Parce que j'ai peur d'écorcher le nom de famille.
Ah bon, bah. Vous m'avez mis que le prénom, alors.
Ah bah non, ouais. Bah attends, le prénom, on l'a dit dans la chanson.
Ah j'ai envie de me mêler.
Alors, Gaëlle Tchakaloff, elle, c'est le prénom qu'elle n'a pas.
Ouais, donc c'est bon, je corrige.
Ah bah oui, bah corrige.
Ah bah moi, je peux le mettre, le prénom.
Tromper, ah, Gaëlle, elle a dû coucher avec
attends,
le papa.
Attends, j'ai essayé de mettre le prénom, bah oui.
La connaissant.
Écoutez, on demandera au fils, en tout cas, ça y est. Tout le monde, ça y est, a identifié notre invité. l'invité mystère. Ah bah non, Stevie propose Raphaël Glucksmann.
Mais écoutez, non, c'est pas ça, c'est l'autre. Ah non, je l'ai.
Alors, on va voir, écoutez, je m'adresse aux six grosses têtes. Notre invité mystère, c'est...
Raphaël Entoven.
Et oui, Raphaël Entoven nous rejoint. Raphaël Entoven était bien notre invité mystère. Il publie aux éditions de l'Observatoire un nouveau récit. C'est bien un récit qui s'appelle Krasnaya. Voilà un titre bien mystérieux, mais derrière ce titre mystérieux se cache, on va dire, une satire, une parodie de notre époque, une parodie animalière.
Oui, une fable animalière, c'était ça l'idée.
C'est entre La Fontaine et...
Orwell.
Voilà.
J'avais Orwell en tête. Vous savez, Orwell, dans La Ferme des animaux, il s'est moqué de l'Union soviétique. Enfin, il a parodié l'Union soviétique. Et moi, je me suis demandé si je pouvais faire la même chose avec la démocratie.
Ça commence par un incendie, ouais. Le feu gagnait du terrain, nourri de bois morts et d'herbes sèches portées par un vent fou. Les flammes bondissaient d'un arbre à l'autre et léchaient le sol en coulées rouges au rythme des rafales. Les bêtes restées sous terre étaient asphyxiées. Celles qui sortaient de leur terrier étaient prises par la fournaise et mouraient en glapissant. C'est le début.
C'est sublime.
Ah ouais.
Sublime, bravo.
Ah, oui, c'est bien lu. Hein.
Ah bah, c'est bien écrit, surtout.
Non, mais vous devriez faire Vol de nuit la nuit, Laurent.
Beau.
Parce que vous lisez mieux que les lectrices.
Oui, et puis il n'est pas beaucoup pris, le reste du
temps. Enfin, je lis mieux que vous, c'est sûr. C'est vrai qu'il me manque...
Trouve,
il avait une heure de libre entre deux et trois.
Mais non, mais c'est rare.
Il me manquait un truc à faire la nuit. C'est bien vrai. Celui qui dirige ce pays, c'est un cheval.
Oui, c'est un vieux canasson pusillanime et complaisant qui a été élu contre toute attente à la dernière éclipse et dont la particularité est de répondre toujours oui d'accord mais enfin tout de même à chaque objection qu'on lui fait, à chaque problème qu'on lui pose. Et donc du coup, évidemment, il essaie constamment d'apaiser les choses en balançant des phrases générales et ça ne fait qu'énerver les gens. Voilà,
c'est marrant, très mauvais souverain.
Alors voilà, c'est pas le en même temps d'Emmanuel Macron, ce serait plutôt le je suis d'accord avec tout le monde de François Hollande.
C'est un animal synthétique en tout cas. C'est-à-dire, c'est un être qui, en toutes circonstances, s'attachera à dissoudre le conflit. Enfin, il essaiera autant que possible de le faire, quitte à énerver les gens qu'il veut faire taire. Voilà. Et c'est un très, très mauvais souverain, évidemment, inapte à gérer une...
Oui, donc c'est bien Hollande. Et alors,
non, il n'est pas le seul.
Et alors, ceux qui ont lu avec, évidemment, attention et qui essaient de décoder votre livre disent, mais je sais que vous avez démenti depuis, disent que Mirko, ce serait Emmanuel Macron. Alors, c'est vrai que j'ai trouvé un passage où là, quand même, dans son discours, c'est un loup, hein, c'est ça.
C'est un jeune loup.
Ah voilà, un jeune loup, Mirko. Et quand effectivement, il termine son discours par « Voilà notre projet
bon, !» C'est clair.
C'est quand même difficile de démentir.
Non, l'honnêteté commande de dire... au début, c'était une transposition. Évidemment, au début, il y a des personnages et puis j'essaie de les transformer en animaux. Ouais. Et puis, assez vite, les animaux s'emparent d'eux-mêmes, quoi. Et donc, ça devient des histoires d'animaux. Mais c'est vrai qu'au début, il reste quelques signes distinctifs. Voilà. Des bon. Uns, des autres...
On essaie évidemment de retrouver et les uns et les autres. C'est ce qu'on appelle parfois une dystopie, rappelons-le, une utopie qui vire au cauchemar.
C'est une utopie qui s'incarne. Une dystopie, c'est toute utopie qui s'incarne devient dystopique. C'est tout l'inconvénient de l'utopie. C'est-à-dire, dès qu'elle endosse les inconvénients du réel, évidemment, elle vire au cauchemar. Aucune utopie ne s'est incarnée sans basculer dans des crimes de
masse. Est-ce que vous allez l'adapter en dessin animé comme Jules avait fait avec Silex and the City?
Ah, j'aimerais ça. J'aimerais ça.
On va vous donner en tout cas le texte de l'interview, Caroline.
Alors attendez, ça va bien de me traiter de connasse pour plusieurs raisons. Je vais vous dire. Un, je suis la première à l'avoir identifié. Parce que je sais qu'il a écrit avec son père un livre sur Proust.
C'est vrai.
Qui m'a donné envie de lire Proust. Ah. Que je n'ai pas encore lu. Mais.
L'envie est toujours là, c'est ça ?
L'envie est toujours là.
Voilà.
J'ai la Pléiade, donc j'ai tous les bouquins. Et je me suis dit, un jour, je me plongerai à fond dans Proust. Et ils m'ont donné envie. La façon dont vous en parliez m'a donné envie.
Monsieur Benguigui.
C'est un garçon qui m'est très familier. J'ai lu à peu près tout ce qu'il a écrit. Et le nom ne sortait pas. C'est comme ça. Mais tu sais, il m'arrive de ne pas retrouver le nom de mon fils aussi, tu vois. Ça nous arrive à tous, tu vois. Merde, tout le...
hein, oui, moi aussi, mais j'en ai cinq. Donc,
voilà, donc c'est très compliqué.
Monsieur Mabille.
Oui. Je vais lire le livre parce que j'aime beaucoup Monsieur Entoven qui m'a appris la philosophie quand il faisait de la radio. J'aimais bien l'écouter tous les matins.
Et pourquoi t'as rien retenu alors? Pourquoi?
C'était sur une autre radio, Julie Leclerc.
Une radio qui n'existe plus.
Vous avez dû croiser Raphaël Entoven à cette époque.
Il était à mes côtés tous les matins pendant.
Tous les matins,
années,
on se retrouvait en studio. C'était une chance folle. C'était un privilège. J'allais retrouver Julie après l'avoir tellement écoutée.
Elle peut vous donner l'heure si vous avez envie.
Déjà fait.
Il est bientôt 18h. Raphaël Enthoven a publié Krasnaya, c'est aux éditions de l'Observatoire. Je n'ai pas besoin de revenir sur les indices parce qu'on les a finalement expliqués au fur et à mesure, que ce soit cette chanson, évidemment, pour Bertignac, mais aussi le reste, la philosophie, et j'en passe. Merci d'avoir accepté cette invitation.
Merci à vous, c'est un plaisir.
En tant qu'invité mystère aux grosses têtes, Krasnaya, c'est le nouveau récit parodique et animalier signé Raphaël Enthoven aux éditions de l'Observatoire.